Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, le dernier one shot du mois, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jeudi du mois avec Flavie. Flavie, ça va, t'as la pêche ?
La pêche !
La patate ?
La patate. Très bien, on vient de manger
patate
des patates.
Nouvelle d'ailleurs. Thomas, la pêche, la patate ?
Ouais, ça peut aller, par contre j'ai une interrogation, comment ça le dernier du mois ? Il n'y en a qu'un seul par mois, donc c'est forcément le dernier du mois.
Le dernier de l'année, tu voulais dire ?
C'est ça, le dernier de la saison. De la saison.
Oh, c'est déjà fini ?
Et oui, c'est le dernier mois où nous diffusons avant les grandes vacances. Après, on se met les pieds en éventail jusqu'en septembre, où nous revenons, évidemment, vous parler de jeux de rôle. Aujourd'hui, pour One Shot, nous avons des invités
très
de marque.
Très spécial.
Un One Shot très spécial. Colline est avec nous. Colline, ça va ?
Ça va.
Alors, tu vas nous présenter quoi comme joli jeu de rôle ? Un jeu de rôle...
Il est joli, c'est vrai.
Que tu as fait avec tes petites mains ?
Oui, avec mes petites mains, avec ma petite imagination et surtout celle de Simon aussi.
Simon est avec nous également. Simon, ça va ?
Ça va bien. Merci de nous recevoir.
Simon, Colline, ça ne vous dit rien, internaute ? Il s'agit des créateurs, des auteurs de Théocali, ce jeu de rôle sur les Mayas, les Aztèques et tout ça, c'est ça ?
Inspiré.
D'accord, alors tu vas nous parler de tout ça.
Les Mastèques.
Un, deux, trois, Pastèques.
Les Mincastèques.
Alors, tu vas nous parler de tout ça, le système de jeu, l'univers, tu vas nous présenter tout ça, tu as 10 minutes.
On va essayer.
C'est parti.
Alors, Théocali, c'est un jeu qui est inspiré véritablement des cultures mésoaméricaines.
D'accord.
Donc, l'action se passe sur une île perdue au milieu des océans, cernée par des brumes infinies que personne ne peut franchir.
Putain, on est dans Lost.
Attends, alors, ça c'est bon ça. C'est-à-dire qu'on fait un truc sur les cultures amérindiennes, c'est ça ?
Mésoaméricaines.
Mésoaméricaine. Simon, si tu parles, il faut que tu prennes un micro, sinon les auditeurs t'entendent pas.
D'Amérique du Sud.
Voilà. Et on n'est même pas en Amérique du Sud, en fait.
Non, absolument pas.
Elle a dit que c'était inspiré d'eux, elle a pas
c'est
dit que c'était
librement inspiré, c'est pour ça.
D'accord, ok, ça marche.
Ça compte dans les 10 minutes, ça ?
Oui, ça compte dans les 10 minutes. Et il n'y a pas de coupure. Tu es en live, là. Hein. Y a...
oui,
attention.
Je sais.
Hein.
Tu disais, on est dans Lost.
Et donc, nous sommes sur une île sur laquelle il y avait de nombreux insulaires, gardés par un dieu unique, créateur, appelé Teotlua.
D'accord.
Et un jour, ils ont commencé prier d'autres dieux, des dieux qui formaient l'île elle-même. Et Teotlua en a eu marre, il les a maudits et il est parti. Ça, c'est la base du jeu.
D'accord, ok.
S'en est suivie une malédiction. La malédiction du fait que les âmes ne pouvaient plus quitter ce monde, ne pouvaient plus rejoindre le soleil. Et on commençait à hanter les rêves.
D'accord.
Donc la folie a commencé à s'emparer des âmes des pauvres survivants qui ne pouvaient plus dormir. Et c'est là que, grâce au ciel, des astres sont arrivés, six dieux, qui ont bien voulu sauver ces insulaires de la folie.
Ton micro, Thomas, t'as qu'à le passer à Simon, comme ça il pourra compléter si jamais. Parce que je vois Colline qui regarde Simon, c'est ça ?
C'est mon pilier.
Ah oui, d'accord. Donc du coup, on va passer un micro à Simon et comme ça, vous pourrez communiquer entre vous.
Qui ont accepté de sauver les insulaires de la folie en créant 1000 statues d'or qui s'appellent les Wakan et qui amèneraient à elles les âmes des personnes défuntes.
D'accord, ok.
Pour pouvoir faire respecter la paix des âmes des vivants, ils ont cependant imposé des tabous, six tabous, qui empêcheraient les insulaires d'agir véritablement comme les hommes agissent, c'est-à-dire de tuer, de violer, de faire la guerre, pour éviter justement que les âmes reviennent et recréer la folie.
Et c'est là justement que les Américains vont débarquer pour imposer Philip Morris, Coca-Cola et McDonald's, c'est ça l'histoire ?
Alors, les Américains d'Espagne. Donc tout se passe à peu près bien, les âmes hantent vraiment de temps en temps les rêves avant de rentrer dans les Wakan. Il y en a 1000 qui sont répartis sur toute l'île, qui sont faites d'or pur.
D'accord.
Les astres repartent.
Approche un petit peu ton micro, Colline, parce que tu vois tes oscillations sont faibles.
Les astres repartent et au moment de repartir, ils choisissent parmi les insulaires qui étaient proches d'eux des élus.
D'accord.
Qui vont former les 6 tribus et qui seront garants des tabous, des Wakan et du bien-être des insulaires.
D'accord.
Donc,
et ces 6 tribus en fait forment des archétypes, on va dire, de personnages.
Exactement.
D'accord.
Des personnes donc qui sont vraiment élues des dieux, donc qui sont supérieures dans la hiérarchie
et les
qui
joueurs, ont aussi. Tu veux dire les personnages des joueurs ?
Oui.
D'accord. Ok. Enfin, je pensais pas qu'on jouait directement des gros balèzes.
Ah bah si, c'est l'intérêt.
Mais si t'es trop bourrin dès le départ, c'est trop cool.
D'accord.
Et qui sont limités par les tabous.
Ouais, voilà, c'est trop bourrin mais trop tabou quoi.
Exactement. Et ils ont les pouvoirs qui sont donnés par leur dieu.
En fait, ouais, ça me fait penser à Shan, dans le principe, je sais pas si tu connais Simon, c'est un jeu de rôle dans lequel tu joues des extraterrestres et parmi eux il y a notamment une religion qui s'appelle le chanisme. Ah, je me suis pas trompé cette fois-ci Thomas, t'as vu, qui est en fait une religion qui t'oblige à avoir un certain nombre de tabous et qui te permet de développer des pouvoirs qui sont de l'ordre de manipulation de la chance. Donc avec un peu de chance t'as oublié de te lever ce matin et donc t'es pas là en ce moment, ou t'as oublié de prendre ton flingue et donc tu peux pas me tirer dessus, etc. Ça me fait un peu penser à ça pour l'instant. C'est un peu l'esprit, j'ai l'impression.
Donc, ils ont des pouvoirs qui leur sont cédés par les dieux. Chaque dieu a des pouvoirs qui sont liés vraiment, qui lui sont propres. Est-ce que tu vas avoir des exemples ?
Bah, je veux bien, ouais, carrément.
Alors, Imhotep a formé la tribu des Totessi qui dirige les quatre éléments.
D'accord.
Tout simplement. C'est une magie freeform. Donc, d'accord, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des quatre éléments. Il y a les animaux, il y a les âmes, les passions, les pensées.
Ça, c'est d'autres
ça,
dieux.
C'est... D'accord. C'est le troisième dieu. C'est Maa Coatl, la femme aux plumes, qui a donné les Maasai, qui dirige les pensées, d'accord, les passions. Tokotsoni, qui a formé les Tsoniti, qui dirige, qui maîtrise le rêve, l'illusion.
Ah là, déjà, il y a un truc qui me frappe direct, c'est que les noms, ils sont à coucher dehors, quoi.
Ouais, de... ça, c'est
moi, j'ai compris, t'attrapes Sonic. Moi, direct.
D'accord, ok.
Donc... C'est vraiment des noms qui sont inspirés des civilisations du Niaouf.
Tu les prononces
fait
vachement bien, vous avez l'air d'avoir l'habitude, quoi.
Ouais, on commence à les connaître.
Ouais, tu m'étonnes. Ok.
Donc voilà, pour donner des exemples, évidemment, il y en a 6 en tout, pour 6 dieux.
Ouais.
Et donc, tout se passe bien. Ces personnes-là sont vraiment adorées du peuple, ils sont là pour faire le bien-être du peuple, mais arrive un moment où les conquérants, donc qui sont des ersatz de conquistadors,
d'accord, okay,
puisque comme c'est librement inspiré, ça n'est que de l'imaginaire, ça n'a aucune volonté d'être historique,
d'accord, okay,
qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils voient en premier ? Ils voient des statues d'or.
Mmh.
Et eux, qu'est-ce qu'ils aiment avant tout ? L'or. Mmh. Donc ils commencent à débiter l'or, mais ce sont des statues sacrées. Les insulaires commencent à leur demander d'arrêter et eux, ils tuent les insulaires.
D'accord, ok.
Donc commence une débâcle.
Sachant qu'ils ont, j'imagine, des armes énormes.
Ils ont des armes qui crachent le feu et le tonnerre. Ils voilà, ont des animaux qui sont totalement inconnus des insulaires. Donc, même au début, ils pensent que ce ne sont pas des humains.
D'accord.
Donc ils commencent à se dire qu'ils n'ont pas d'âme, donc mais le...
C'est marrant, parce que tu dis que c'est pas inspiré, enfin tu dis que c'est pas historique, mais en même temps tout ce que tu dis là, c'est les éléments qui ont mené à la chute.
Effectivement, si les Aztèques ont été conquis par les conquistadors, c'est parce que leur chef avait dit que les conquistadors étaient des humains.
Mmh.
Et c'était
des dieux, tu veux dire.
Des dieux, tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils ont été détruits et vaincus.
D'accord.
Donc là, effectivement, le seigneur de l'île décrète que ce sont des humains et que donc les tabous
que les tabous s'appliquent à eux, effectivement. Ouais.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Voilà déjà une petite présentation. Est-ce que tu pourrais rapidement quand même nous parler du système de jeu éventuellement ? Le système de jeu, de cette résolution. Simon ?
C'est moi qui vais me charger de cette.
Ça roule.
De cette partie.
De cette patate chaude, d'après ce que j'ai compris.
Le système de jeu, en fait, il est assez simple. On va se rapprocher d'un roll and keep un peu à la légende des cinq anneaux. En fait, on a une caractéristique couplée à une compétence, en fait, qui donne un pool de dés à lancer. Et on lance les dés. On choisit sur les dés, c'est un système binaire. On choisit sur les dés pair ou impair, ça donne des réussites ou pas. Si par exemple on fait 5 pairs, c'est qu'on a fait 5 réussites sur les dés. On peut jouer au D6, au D10, au D12, peu importe. Et ces nombres de réussites-là sont opposés à un seuil de difficulté qui représente le nombre de réussites justement à avoir. Donc on a un système vraiment très simple qui se rapprocherait plus, même je dirais, de Metal Adventure pour ceux qui connaissent. Couplé à ce système-là, qui est finalement assez simple, on va avoir un système de magie freeform. Les personnages sont avant toute chose des, comme Colin et Romaric le disaient tout à l'heure, on va avoir des personnages qui sont effectivement des personnages très très puissants, contraints par des tabous et qui maîtrisent tous une forme de magie freeform. Donc qui est composé de deux manières, avec un système assez light, basé sur ce qu'on appelle l'Oa, c'est-à-dire de l'énergie magique provenant de l'île elle-même.
D'accord.
Et sur presque une magie aussi narrative, on mélange un petit peu les deux. Donc où le joueur...
Ça s'appelle une magie narrative.
C'est-à-dire une
Tu m'intéresses là, ton micro.
Une magie où en fait le joueur va pouvoir réellement composer ce qu'il veut, décrire les effets, et le système s'adapte à sa volonté, pas
d'accord,
l'inverse.
D'accord, ok.
Le joueur n'est pas contraint, on va dire, même par le système. Pas tout à fait. En tout cas, plus le personnage va évoluer, moins il va être contraint par le système.
D'accord.
Donc, il va pouvoir décrire ses actions et après jouer justement avec le système pour pouvoir accomplir ce qu'il veut. Donc, on se rapprocherait en ça, par exemple, d'un système comme Mage, pour ceux qui connaissent, où on a une magie, effectivement, qui est soumise à la volonté du joueur.
Thomas, je te balance mon micro, t'as envie de réagir.
Oui, c'était sur le fait qu'au fur et à mesure que le joueur avance dans le jeu, il pourra commencer à décrire ses actions. C'est-à-dire que dans le reste du jeu, ce n'est pas le... C'est bon, là ?
Non.
C'est bon ? Oh ! En fait, je voulais dire, c'était... C'est bon ? Voilà. Donc, c'était pour dire que dans le jeu, au début, le joueur ne pourra pas décrire ses résultats.
Si, bien sûr. Il pourra les décrire, mais si tu veux, il sera limité aussi par des. C'est surtout, on parle surtout de la magie, là, hein, pour le coup, oui. qui est très très importante dans le jeu. Si tu veux, au début, en fait, il va être limité. Il y a quatre domaines de grâce. La grâce, c'est la magie du jeu. C'est des grâces, des choses qui ont été données par les astres. Et au début, il va pouvoir maîtriser que les grâces mineures et majeures, ce me semble, c'est ça. Et en fait, ces grâces ont des effets vraiment limités. Donc, du coup, sa description va être plus limitée. Si
voilà, d'accord. En fait, la description est libre, mais limité et après se délimite au fur et à mesure. D'accord.
Et plus le personnage va évoluer, plus il va prendre de la bouteille, si j'ose dire, plus il va commencer à avoir des pouvoirs qui vont s'approcher au final des pouvoirs des astres.
D'accord.
Donc pour celui qui maîtrise les éléments, il sera capable de lever une montagne, de créer dans ses mains de l'eau, donc créer ex nihilo quelque chose.
De devenir de l'eau,
tout à fait.
Est-ce qu'il en aura le temps, sachant que les vilains conquistadors débarquent tout à l'heure?
On est dans un jeu où il faut trouver des solutions. En fait, les personnages sont justement contraints par leurs tabous, qui sont des tabous divins. Ce sont des tabous divins.
C'est quoi les tabous?
Le premier tabou, c'est de ne pas enlever la vie humaine.
Donc déjà, les conquistadors, ils arrivent, c'est des humains, on peut pas les tuer.
Voilà, ouais. Exactement. Donc c'est le premier gros point du jeu, c'est de dire ça. Comment on fait pour gagner la guerre quand on doit lutter contre un ennemi qu'on ne peut pas tuer, même si on a des énormes pouvoirs? Comment on fait? Et justement, souvent en partie, nous, quand on le fait jouer, on a des joueurs qui sont capables de déclencher des tempêtes de flammes, qui sont capables de faire éclater quelqu'un de l'intérieur. Et comment ils font, ces gens-là, justement, avec leur pouvoir si puissant, pour essayer justement de ne pas tuer leurs adversaires?
D'accord.
Et c'est en ça que le jeu est triste et tragique, c'est d'accord. que justement on a des personnages
qui voulais filer plein de pouvoirs à tes joueurs et leur dire bah voilà, gros pouvoir, grosse responsabilité, en plus vous n'avez pas le droit de tuer, etc.
Et tout à fait,
tu les prends dans un étau très très intéressant. Bah moi j'ai bien hâte de jouer en tout cas. On y va, c'est parti, on joue. Ouh, bon voilà, partie terminée, il est quelle heure là?
Il est 2h moins le quart.
2h moins le quart, voilà. On a joué combien de temps?
Avant Jésus-Christ.
On a joué à partir de 21h, donc on a joué 4h45, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Et Fly n'a pas perdu son humour pourri, tu l'as dit dans la blague, dans le micro, j'imagine.
Oui, je l'ai dit dans le micro.
Bravo.
J'ai mangé un clown.
Oui, je sais ça. Bon, par qui on commence? Est-ce qu'on commence plutôt par le ressenti des joueurs ou par le ressenti du maître de jeu? Fly, tu veux commencer? J'ai l'impression que t'es chaude, là.
Ouh.
Oh là 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 là.
Écoute, il est 2h moins 15 avant Jésus-Christ. Me lance pas trop.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé de
la partie
de Tokage?
C'est la deuxième fois que je joue.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours trouvé ça aussi bien. Je suis fan.
D'accord.
Voilà.
Donc, pourquoi est-ce que tu as bien aimé cette partie?
Alors, moi, c'est la deuxième partie, comme je l'ai dit. Alors, moi, pour un truc tout bête, c'est qu'à chaque fois, j'ai pris des persos qui étaient vachement différents de ce que je suis capable de jouer.
D'accord.
Et que à chaque fois, la fiche de perso me permet de jouer ces personnages-là. Par exemple, moi qui suis quelqu'un de un peu rigolote, tout ça. Là, ce soir, je jouais quelqu'un quand même de vraiment pas drôle. Je jouais un Aïma, c'est un juge,
sinistre,
il est chiant, sinistre. Et en fait, je me disais, je vais jamais être capable de tenir ce perso. Je vais forcément craquouiller à un moment ou un autre. Et en fait, non, la fiche de personnage. Dès que tu la regardes, en fait, t'as des choses qui te disent ce que tu peux faire, pas faire. Et en fait, je trouvais que ça nourrissait, en fait, mon roleplay.
Mmh.
Et qu'au fur et à mesure, du coup, ça m'a vraiment mis dedans. Et je trouve que c'est une des forces de jeu. Moi qui aime bien jouer un peu roleplay et me mettre vraiment dedans et m'immerger, c'est que la fiche de perso te permet vraiment rapidement de t'immerger dans un personnage pour peu vraiment que tu la lises bien.
Ouais, alors il y a vraiment beaucoup d'informations sur cette fiche de
notamment
personnage.
Notamment fortune et infortune qui m'ont beaucoup aidé.
En haut de la fiche de personnage, on trouve le nom, le sexe, l'âge, la tribu et le clan auquel on appartient, ainsi que plusieurs principes qui guident notre interprétation. Alors moi j'avais la compréhension, la solidarité, la liberté, la conviction, le courage et le labeur. Après il y a un petit extrait du vécu Puis ensuite, on trouve un cercle en fait sur lequel on a quatre, on va dire, caractéristiques, même si je pense que tu n'aimerais pas ce mot-là, Simon.
Ça rentre pas,
attention à ton micro.
Ça, ouais. Excuse-moi, ça rentre pas réellement dans la comment dirais-je, dans l'histoire théologique du jeu, si j'ose dire, mais ouais, on peut dire caractéristique, ouais. Ouais, en termes de règles, ouais.
Le sens, l'âme, le respect, le corps, et puis ensuite sur le côté on a des acquis: célébrer, charmer, combattre, dissimuler, examiner, fabriquer, intimider, invoquer, savoir, se déplacer, soigner, survivre.
Et là pour le coup, ce serait vraiment des compétences si on voudrait toujours comparer. Mmh,
ouais. Et puis ensuite une série de, moi ce que j'appellerais des traits, c'est-à-dire plus en talent d'âme, etc., mais basé sur un fait qui est de la forme. Mmh. Je suis né avec une lueur de sagesse dans le regard, par exemple. Je suis né petit et faible.
J'ai été l'apprenti d'un célèbre soigneur, ou en fait, un être cher est mort violemment.
Les fortunes et les infortunes, c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure, ouais. Faye.
C'est un être cher est mort violemment, ou mon théâtre ne m'a pas donné tout son pouvoir, ou des choses qui permettent de nourrir vraiment ton personnage.
Ouais.
Pour peu qu'ensuite tu lises les grâces maîtrisées, qui sont en fait les magies que tu peux utiliser qui influent aussi sur ton roleplay.
Donc il faut bien comprendre, même sur la fiche de personnage, qu'ils sont freeform. C'est-à-dire, oui, que même s'il y a des choses qui sont écrites sur la fiche, ce ne sont que des exemples.
Et ça nourrit vraiment le personnage. Tu imagines des choses. Et je trouve que tout ça permet vraiment d'imaginer tout un background. Et en plus, ça nourrit ton roleplay. Et en plus, il y a des choses qui s'appellent assimilation d'Oa, qui t'oblige à faire un roleplay pour assimiler des points. Et du coup, je trouve que ça te met vraiment dans le truc.
On en reparlera. Simon, tu voulais réagir à ce que disait
Flavie ? Oui, par rapport aux fortunes et infortunes, en fait, il faut savoir que c'est la manière de créer les personnages. En fait, on crée les personnages par ce qu'on appelle les éclats de vie, c'est-à-dire qu'on compose un personnage via son historique. Donc en fait, tout ce que vous avez marqué, ce sont des grandes lignes d'histoire que les joueurs peuvent préciser ou non. Ça, c'est pas important, entre guillemets, en one-shot, mais en partie de campagne, par exemple, c'est plus important que les joueurs précisent un petit peu plus leur historique.
D'accord.
En fait, la création de personnages se fait par choix, ou d'ailleurs, ou choix aléatoire, entre guillemets, de ligne de vie. Donc voilà, donc c'est vraiment la création de personnage qui est marquée sur le côté.
Donc finalement, quand on crée son personnage, on crée son historique, et de son historique découlent certains éléments techniques qui vont ensuite servir à la résolution.
Exactement,
des actions.
Exactement, tout à fait, oui, tout à fait. Tout à
d'accord.
Fly,
tu parlais tout à l'heure des régénérations, donc ce sont des
les
points...
Les assimilations, ouais.
Les OA. Les OA, donc OAS, hein, c'est détaché, qui sont en fait des points de magie, si j'ose dire, qui vont permettre d'utiliser les fameuses grâces dont on parlait tout à l'heure, qui sont freeform, on
des
dira
pouvoirs,
aussi intuitives, des pouvoirs, voilà. Et donc, pour régénérer ces pouvoirs deux fois par jour seulement, deux fois par soleil, comme ils disent, eh bien, on va devoir faire une scène, comment tu dis,
de roleplay, entre guillemets.
Non, pas de régénération.
Assimilation.
Une scène, voilà, d'assimilation. Qui te met vraiment dans l'ambiance de ton perso, parce qu'au début, moi, j'étais pas dedans. Puis en fait, dans l'assimilation, il y a assurer un rituel mortuaire. Mmh. Et du coup, j'ai assuré un rituel mortuaire, et honnêtement, vu la forme du rituel et tout, mais ça m'a mis dedans, quoi. Et,
ouais,
et du coup, après, bah, du coup, je me sentais plus investie de mon personnage. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment le jouer, ce truc. Tu vois ce que je veux dire ?
Je me demande quand même si... Alors là, moi, là-dessus, j'aurais une petite critique à formuler, petite. Je me demande quand même si au niveau de l'assimilation, il n'y a pas un moment donné quand même dans le jeu où ça devient assez mécanique. C'est-à-dire, il y a un moment donné quand même où on s'est tous regardé autour de la table et on a fait « T'assimiles, toi ? Ok, c'est bon, t'as fini d'assimiler. T'assimiles, toi ? Ok, c'est bon, t'as fini d'assimiler. » Et où finalement, le côté roleplay lié à l'assimilation était un petit peu perdu.
Bah, si tu veux, ça c'est...
Simon, attention à ton micro.
Excuse-moi. Ça, c'est assez intéressant dans le sens où il ne faut pas oublier que la vie des tribaux est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure en début de partie, une vie monacale. C'est-à-dire, les personnes que vous jouez, que vous incarnez, sont des personnes qui sont issues d'une vie qu'on peut qualifier de vie de moine ou de vie de nonne.
D'accord.
Et ce sont des vies qui sont souvent réglées comme du papier à musique. Ce qui fait que.
Sur ton micro, Simon.
Je suis vraiment désolé.
Non, c'est pas grave, je t'en prie. Non, c'est normal.
Ce qui fait qu'en fait, l'assimilation d'Oa rentre parfaitement dans leurs rituels qui sont pratiqués. Et ce sont vraiment des choses qui sont ritualisées. Donc, c'est pas étonnant que cette assimilation devienne finalement systématique, en partie puisqu'elle fait partie du rituel de chaque personne.
Donc, finalement, tu dis c'est normal. normal qu'au bout d'un certain moment, les joueurs n'aient pas forcément besoin de le décrire.
Au bout d'un moment, ça devient presque... tu peux... Alors, pas en première partie, effectivement, parce qu'il faut que les joueurs rentrent dans leur personnage. Mais une fois que le véhicule est lancé, on peut bien imaginer qu'en campagne, les joueurs n'aient plus réellement à décrire leurs actions, mais simplement à dire, bah là, j'aimerais assimiler tant de ça, et qu'on s'intéresse vraiment plus au fil de l'histoire qu'au jeu des personnages eux-mêmes.
Et puis même, il y a un moment où on a assimilé des OA, moi je le savais pas, donc moi je l'ai fait vraiment en roleplay, puis ensuite tu m'as dit, ouais, tu peux assimiler si tu veux. Par exemple, en ayant une scène d'intimité, de sexe, disons-le carrément, avec quelqu'un, et en fait, moi je ne savais pas, et moi il a fait, bah, ça, tu peux te mettre deux OA. Je fais, ah bon, quand tu as du sexe, ah bah nickel. Donc en fait, tu peux aussi assimiler, du coup, vraiment en jouant ton personnage, je pense.
Tout à fait. Ouais, ouais.
Certaines assimilations vont être plus
agréables que d'autres.
Plus agréables, ça c'est sûr. Mais vont être plus faciles à mettre en scène, vont être vraiment plus roleplay. C'est vrai que bon, la mécanique dans le sexe, à moins de trouver un partenaire dans le groupe qui accepte de faire ça régulièrement, ça juste dans un but
il est 2 heures,
pratique.
Là. On y va.
Justement, moi, je trouve ça, le fait que ce soit une action précise qui a besoin en fait de se réaliser pour que les OA remontent, je trouve ça plus intéressant que l'idée de l'assimilation mécanique au final, parce que ça oblige le joueur à faire du jeu. Moi, je prends par exemple mon exemple, c'est plonger les mains dans la terre. Bon, bah, c'est aussi rapidement fait que je plonge les mains
dans
la terre.
Oui, mais faut pas oublier que c'est free, je ne sais plus ce que vous dites là.
Freeform.
Freeform, en gros, tu fais.
Intuitive, ce... Fly.
Voilà,
c'est
intuitive.
Quand on disait magie intuitive.
Voilà. Ça, moi, il y avait marqué faire un rituel, ce genre de choses, mais je pense que du coup, tu peux quand même un petit peu broder là-dessus.
Là où je veux en venir, Flavie, c'est que peut-être que ces histoires d'assimilation aurait pu être traité d'une manière différente qui t'oblige à faire certaines actions particulières, par exemple en rapport avec les tabous, par exemple, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, de créer davantage de choses. Je trouve que là, l'assimilation se fait un petit peu trop de manière mécanique et qu'au final, à un moment donné, on doit s'en passer, on doit arrêter de la jouer. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Je suis désolé, tu parles de ça. Moi, c'est direct un de mes points négatifs.
Mais bon, moi, c'était un des points positifs. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que moi, c'est un des points positifs.
Mais ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, ça dépend vraiment.
Moi aussi. Non, le principe d'assimilation, je suis d'accord avec toi, Fly. Mais je dis juste qu'il aurait pu peut-être un petit peu mieux traiter, quoi. Voilà. C'est Simon.
Ce qui est drôle, c'est que c'est un point justement qui clive un peu. Ça se dit cliver ? Oui, qui clive un peu les joueurs. C'est qu'en fait, effectivement, on a des joueurs qui vont jouer de manière un peu, on va dire simplement en termes de règles, c'est-à-dire, bah, j'ai plongé les mains dans la terre. Point barre. Mmh. Et on a des joueurs au contraire qui vont vouloir le faire parce que. Parce qu'ils sont dans le jeu tout simplement. Il faut pas oublier que moi, dans la vision que j'ai du jeu de rôle, c'est une vision très particulière. C'est-à-dire que je vois ça comme un roman. C'est-à-dire que les premières parties vont être des parties de construction de personnages, comme dans une histoire. Et après, quand l'histoire va réellement se lancer, on va abandonner un petit peu tous ces petits systèmes qui vont caractériser le personnage au profit de l'histoire. Donc moi, j'ai une vision très très particulière de la chose. Et ça découle de ma vision en fait. Donc voilà.
C'est une vision très intéressante. Enfin, c'est bon, à mon avis, je pense que si je jouais à ce jeu plus longtemps, il y a un moment donné où l'assimilation telle qu'elle est faite là, j'aurais envie de la développer davantage et de faire ce que tu dis là, que c'est ça crée de l'histoire en fait. Quoi,
parce
que on sent bien que c'est un jeu qui veut créer de l'histoire. Alors entre les personnages et tout, donc Fly, est-ce que tu as d'autres remarques à faire, des critiques négatives par exemple, parce que tu en as. Non, d'accord.
Je suis désolée, Thomas. J'aime bien.
Bah, passe le micro à Tom, du coup.
Alors moi, j'ai passé un bon moment de jeu, je me suis bien marré.
Pareil.
À un moment, j'ai été perdu sur tout le vocabulaire. Alors là, il y avait des moments où j'étais complètement noyé, je ne savais plus de quoi on parlait. Bon, ça, je pense que c'est pareil, c'est le fait que c'est la première partie que je
fais.
Et que je n'ai pas cette culture des Incas, des Aztèques...
Oui, c'est juste que dans le livre de règles, il y a un endroit, c'est une sorte de glossaire. Mmh. Alors, je pense qu'il doit être assez imbuvable, mais je pense que pendant les premières parties de jeu, il faudrait carrément que les joueurs l'aient lu.
Je te le conseille, c'est en convention.
C'est ce qu'on fait en convention, on fournit un glossaire raisonné, en fait.
Ouais,
donc, avec les termes qui vont être utilisés pendant la partie pour les joueurs. Donc,
comme Thomas, moi, ça m'a manqué.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments où on fait la partie, on voyait tout le monde qui était à fond dedans, et puis qu'est-ce qui se passe? Alors je sais qu'il y a un grand méchant là-bas, ok, d'accord. Mais je pense que c'est une habitude, dire, dire au fur et à mesure, t'as les termes et tu acceptes. Hein. Ouais. Après dans le système, bah, j'ai trouvé assez sympathique, parce qu'en fait, en fin de compte, bah, moi je me suis trouvé avec un personnage qui était super bourrin, je balançais plein de dés.
Comme tous les personnages de Théo.
Voilà, c'est ça, on sent qu'on est vraiment très fort. Quoi. Ouais. Et ça c'est sympa comme sensation. Le système de magie m'a beaucoup plu. Parce que pareil, c'est simple, on sait exactement ce qu'on fait et il y a cette possibilité de développer personnellement. Et surtout, un truc qui était pas mal qu'on a vu après en cours de partie, c'est de pouvoir mélanger des pouvoirs pour faire des effets supplémentaires.
Effectivement, ouais. Combiner les OA. Si je peux me donner un petit exemple, c'est par exemple un maître des éléments, une personne qui vénère le dieu rampant, a la capacité de maîtriser des grâces des éléments. Et par exemple, en utilisant de manière simultanée une grâce de la terre et une grâce de l'eau, il va pouvoir, par exemple, comme je disais tout à l'heure, créer de la boue. Voilà. Donc on peut combiner ces grâces pour donner des effets un peu plus des effets plus comme dirait l'autre.
Et même entre tribaux d'ailleurs.
Et même entre tribaux aussi.
Là vous l'avez fait plusieurs fois d'ailleurs, Colline, avec le personnage de Thomas.
Je l'ai fait avec le personnage de Thomas et avec le personnage de Fly.
Et indirectement avec le mien aussi, puisque au moment où je lance les scorpions sur un des méchants, tu amplifies sa peur.
Oui, effectivement.
C'est indirectement. C'est pas vraiment combiné, mais.
Et ça, c'est le fait de connaître toutes les ficelles du jeu, évidemment. Mais bon, là, voilà, ça s'y prêtait vraiment et ça a permis de faire avancer l'intrigue.
J'ai senti au cours de la partie que t'avais un avantage sur nous à ce niveau-là.
Oui, c'est
clair.
C'est-à-dire
que, mais même si je t'ai trouvé très, en tant que joueuse, vraiment très discrète à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si tu savais les clés, tu nous disais pas, tu te retenais, c'était parfait, quoi. Enfin, t'as pas du tout nuit à notre expérience de jeu.
Mais je l'avais promis à Simon avant.
Mais c'était super. Enfin, franchement, c'était bien de jouer avec
une...
Moi, heureusement qu'on a joué avec une joueuse expérimentée, en fait. Parce que je pense qu'on n'aurait pas forcément vu tout ce que le jeu avait dans le ventre.
On aurait loupé. Hein.
Imagine Thomas si on avait dû tester ce jeu-là tout seul, quoi. On aurait peut-être un petit peu galéré, je pense. Tu crois pas ?
Oh, je suis pas sûr. Vous avez.
Je suis
quand
pas
même
sûr. Hein, là, effectivement, ça a été beaucoup plus simple parce que il y a eu directement des automatismes. Mais c'est pareil. Le scénar, ça aurait été préparé par quelqu'un qui a juste lu la base et donc le scénar aurait peut-être été plus simple.
Je me suis mal exprimé parce que ce que j'ai dit, ça laisse entendre qu'on n'aurait pas compris le jeu et que
sous-entendu
la base ne nous permettrait pas d'obtenir une bonne partie. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que notre plaisir a été d'autant plus grand qu'on avait autour de la table deux connaisseurs qui à chaque fois se passaient la balle. Moi, je vois par exemple quand tu posais des questions d'ordre sur les Incas, je sais pas comment dire, sociologiques, que tu demandais à Colline, c'est bien ça, et que Colline disait, mais oui, bien sûr, cette caste-là, machin truc. J'ai appris plein de choses. Enfin, j'avais la sensation en fait d'apprendre plein de choses, même si ces peuples peut-être n'existent pas, parce que vous avez pas une prétention à faire de l'anthropologie ou de l'histoire. Mais enfin, je sais pas. J'avais la sensation que l'échange que vous entreteniez toi en tant que joueuse Colline et toi en tant que maître de jeu Simon était vachement positif. C'est-à-dire, à ce niveau-là, enfin moi en tout cas, ça m'a profité. J'étais content de jouer avec vous deux. C'est ça que je veux dire en fait.
Mais là aussi, c'est le fruit d'un travail, hein, parce que au début, c'était pas comme ça. C'était difficile pour nous. Enfin, quand il y en avait un nous qui connaissait toutes les ficelles du jeu, c'est toujours difficile de se retenir, de pas connaître les lignes du scénario et puis de se dire c'est forcément ci ou forcément ça. Mmh. Et on a vraiment travaillé tous les deux là-dessus pour réussir à voilà, à se tenir nous-mêmes. Même quand tu m'as posé des questions, Flavie, sur ce qu'il y avait dans les puits abyssaux, et je lui ai dit, si tu veux vraiment le savoir, j'essaierai de faire un jet de dés, mais au final, on n'a pas eu besoin, mais
d'accord.
je voulais pas spoiler. Non,
c'était vachement
une bonne partie.
En même temps, quand on avait besoin de précision, vous étiez là, on n'avait pas besoin de sortir à la base et de se taper une minute à regarder où c'était. Là, on vous avait sous la main, et du coup, ça allait beaucoup plus vite, et l'expérience d'enjeu s'en est ressentie. Thomas, tu veux...
Non, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses de dites, donc j'ai rien à rajouter là-dessus.
Alors, toi en tant que joueuse, Colline, ça va? Tu n'as pas trouvé que c'était une partie étrange, qu'on a joué bizarrement? Est-ce que c'est une partie qui s'est déroulée comme celle que tu as l'habitude de voir?
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que comme toute première partie et tout one shot, c'est vrai qu'il y a certaines petites nuances, je dirais, qui sont un peu difficiles à assimiler en tant que joueur. Effectivement, c'est vrai que des fois, par rapport au tabou, on ne sait pas trop comment se placer. Et bon, c'est pour ça que des fois, je me permettais un petit peu de dire « Ah oui, on a oublié de vous dire que si ou que ça » pour essayer de vous positionner un petit peu et puis vous faire vraiment découvrir comment se fonctionnent les tabous, comment peuvent réfléchir des insulaires.
Oui.
Mais sinon, non, ça, enfin, ça, c'est normal.
C'est normal.
Je veux dire, quand à partir du moment où on découvre un univers, de toute façon, quel que soit l'univers, je pense, il y a des trucs. Et puis bon, ça, c'est notre faute. Hein,
je te pose la question parce que parfois, j'ai cru apercevoir dans tes yeux un regard un peu médusé du genre. Pourquoi ils font ça, ou tiens, c'est bizarre. Enfin, parfois j'avais l'impression que tu me reprochais le fait d'être parfois déconcentré ou distrait.
Non,
ou
les regards de Colin.
Ouais, voilà, on me reproche toujours. Je dois avoir un regard trop expressif.
D'accord. Okay.
On me reproche toujours de faire des regards qui ne sont pas ressentis.
Non, mais voilà. Voilà. C'était juste pour te demander ça. Thomas, quelque chose à ajouter ? Non, toujours. C'est bon, t'as fait le tour des questions ?
Non, toujours pas, Romaric.
Excuse-moi, je t'avais déjà.
Voilà, j'attends ton avis, ton ressenti sur le jeu, pour qu'on passe au truc suivant.
Alors déjà, il y a une première question que je voudrais te poser, Simon. À un moment donné, t'as dit un truc par rapport au système. T'as dit, je veux que mon système, en tout cas, que les joueurs ne thésaurisent pas leurs points et que quelque part, à chaque partie, ça reboot. Pourquoi est-ce que tu as eu ce désir quand tu as créé Théocali ? Alors que l'habitude, ce qui plaît beaucoup aux maîtres de jeu, c'est des gros packs,
je parlais des points d'OA, là, en l'occurrence.
Alors, d'accord.
Les points d'OA, en fait, on voulait empêcher justement que les joueurs les gardent d'une partie sur l'autre par souci de simplicité. En fait, c'était d'un scénario sur l'autre, c'est ça ? Par souci de simplicité, en fait, c'était juste ça.
Idem pour les indices, d'ailleurs, qui reviennent à leur base en début de scénario.
Donc en fait, si on augmente son personnage avec de l'expérience, bien entendu, les stats augmentées, les perks, etc. vont rester. Mais tout ce qui évolue en termes de jeu de manière éphémère, comme une augmentation de respect, par exemple, parce que on a fait un petit acte de bienfaisance pour la communauté ou parce qu'on a assimilé de l'OA, ça, chaque début de partie, ça va rebooter. Parce que c'est par souci de simplicité, en fait.
D'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec une volonté particulière.
Ah, non, c'est vraiment par souci de simplicité. Okay.
Comment on fait pour gagner du PEX d'ailleurs dans le jeu?
Donc ça s'appelle des fragments de vécu. Il y a plusieurs conditions à remplir. Bon, déjà, de base, les joueurs, en fonction de... Ouais. Ah mon Dieu.
Une araignée.
Donc Colin avait une araignée dans le dos monstrueuse. Je viens de l'exploser. Voilà.
Mais elle aurait pu vivre sans que j'en aie conscience.
Tout à fait.
Mais oui, mais moi je l'ai vu.
Ah oui,
tu l'as vu depuis longtemps aussi,
Fly. Bah écoute, je suis comme ça depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, avec la main toute crochue.
Pareil. Et moi, depuis que tu parles, je n'arrive pas à me concentrer parce qu'il y a cette. Voilà.
Je viens de gagner un fragment de vécu là. Non, en fait, il y a d'abord des gains de fragments de vécu en fonction de la réussite du scénario, évidemment. Et ensuite, tout événement majeur qui va arriver au personnage va leur amener des fragments de vécu. Par exemple. La découverte d'une nouvelle région de l'île, ça, c'est à chaque événement historique vraiment qui va enrichir le personnage. Les crises, on n'en a pas eu là, mais quand on tombe à zéro, on subit une crise, donc qu'on soit à l'agonie ou des choses comme ça, qu'on soit pris de folie.
D'accord.
Ça amène des fragments de vécu, mais aussi lorsqu'on arrive à 10 dans un indice, c'est-à-dire qu'on transcende vraiment un aspect, on gagne aussi des fragments de vécu. Tout événement que le compteur juge vraiment important pour le personnage va amener des fragments de vécu qui ensuite permettront, des PX... normaux d'acheter des points d'aspect, d'augmenter sa base, évidemment d'augmenter ses pouvoirs.
Ok, parce que de la manière en fait dont l'avait dit Simon, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait cette sensation que chaque scénario est une nouvelle chose et que
non.
Vois, enfin ça pouvait vouloir dire quelque chose du point de vue du jeu. Je me c'était une question que je me posais.
Cependant, à un moment, t'as dit j'accumule la mort. Mes souvenirs sont bons, Romaric.
Ouais.
Et justement, je trouve que c'est pas possible d'accumuler à mort.
Ah non, tu peux pas.
Et c'est ça qui est. Enfin, moi, je suis pas fan des jeux type à tendance ludiste où le but c'est de faire monter le plus gros machin, bidule chouette. Là, au moins, le but c'est de créer un beau personnage, j'ai l'impression.
Tout à fait, ouais. Et puis, de toute façon, les personnages sont tellement puissant à la base, de toute façon les faire augmenter, les faire se transcender encore plus, ce serait créer presque des monstres. Donc au final, nous on a voulu qu'ils puissent évoluer, mais par petites touches. Moi j'ai pas voulu qu'ils deviennent, qu'ils puissent accéder à des nouvelles formes de magie, à des magies plus, on va dire, plus miraculeuses, plus magnifiques, pourquoi pas, mais qu'ils évoluent vraiment brutalement en termes de caractéristiques et tout, c'est pas le but. Donc, voilà.
Thomas.
Petite question sur l'évolution des personnages. Ouais. Sur la fiche de perso, donc, comme on disait donc, au début de la présentation, mm-hmm. Dans le monde de Théocalie, en fait, il y a ce qu'on appelle les tabous. Mm-hmm. Mais sur la fiche de perso, il y a l'importance des tabous personnels donc, au personnage, donc sur l'ordre dans lequel de ses priorités. Est-ce que ces tabous peuvent évoluer dans le jeu ? Est-ce qu'à un moment, un joueur pourra dire bah non, voilà, je sais que le tabou que j'avais mis en position 2 ou que j'avais en position 2, c'était le corps humain. Mais je considère que maintenant, le corps humain est quelque chose d'en dessous, je préfère le respect des astres. Passer au niveau 2. Est-ce que c'est possible ?
Est-ce qu'on peut changer l'ordre ?
Tout à fait. Et c'est même conseillé, puisque moi, comme je voulais, je suis chiant avec cette notion-là. Mais comme je vous l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est raconter une histoire. Et il n'y a pas de bonne histoire sans personnage qui change. Et un personnage comme le tien, par exemple, qui avait
donc le mien,
le Xyatal, voilà, plus sauvage, on va dire.
Personnage proche des animaux. Plus sauvage, donc
plus instinctif,
hein.
Va peut-être avoir un peu plus de facilité à accepter la violence et désobéir au principe.
Dans la nature, voilà. Il y a de la violence.
Ouais. Exactement, et peut-être qu'au fil de ces aventures, ce personnage-là va peut-être se trouver, je sais pas, une nouvelle volonté de respect des traditions, ou peut-être parce qu'elle aura blessé quelqu'un, va placer le tabou de la violence de manière plus haute. Et donc il faut justement jouer avec ça. Il faut que les personnages, il faut pas, mais c'est conseillé que les personnages changent justement.
D'accord. Donc, est-ce que dans les règles, il y a quelque chose qui spécifie que il faut que ça change? Alors, ou non, c'est vraiment l'interprétation, c'est en fonction du joueur et on laisse totale liberté.
Oui, c'est le joueur qui décide, mais en fait, nous, en plus que les modifications de caractéristiques et de pouvoir des feuilles de personnages et des PJ, nous, ce qui nous intéressait, c'est justement de faire évoluer la mentalité des joueurs. Enfin, des joueurs et des personnages, par conséquence, évidemment. Et c'est vrai que nous, donc c'est pour ça que quand tu dis est-ce que ça peut évoluer, tout à fait, et ça doit évoluer. Sinon, on a raté notre jeu, quoi.
Moi, c'est. Ouais, vas-y, tu
Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Et ce qui est intéressant avec Théocalie, enfin, moi, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que c'est un jeu à secret. On n'est pas dans un gros jeu à secret avec des milliers de secrets à tiroir. On a
des extensions, des choses qui doivent sortir un an, puis au bout de 2 ans,
exactement.
Puis au bout de 3 ans.
Là, la vérité sur l'île, elle tient, je crois, en 2 pages. Voilà.
Oui, 3 pages.
Donc on peut tout lire, apprendre toute la vérité. Et c'est vraiment pour les personnages, comme pour les joueurs qui jouent sans savoir la vérité. D'après, quand on a fait nos parties et qu'on a révélé une partie de la vérité aux joueurs, c'est vraiment quelque chose qui les secoue. Voilà, parce que ils se rendent compte de ce qu'ils sont réellement, de ce qu'ils peuvent vraiment faire. Mmh. Et là, on est justement dans un jeu d'évolution de la mentalité du personnage, sûr. Qui est très intéressant.
En fait, voilà, il y a des secrets, c'est mais c'est pas ça l'objectif du jeu. C'est vraiment en fait, quand vous avez créé ce jeu-là, c'était de faire évoluer les joueurs, donc à partir des tabous.
Exactement, tout à fait. Ouais.
Et ça, c'est vraiment, moi, j'ai noté. Je peux finir de...
On coupe le pauvre Marik.
En fait, ça, moi, c'est un truc que j'ai noté, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui est très difficile à juger en one shot. Parce que en fait, ce qui va compter, c'est beaucoup l'évolution des personnages au fur et à mesure de la campagne et des révélations de la campagne. Parce que ce qui fait et ce qui tient nos personnages, c'est le fait que on a toujours été élevé dans une société X type donné, et en fait, on va découvrir au fur et à mesure, je pense, qu'elle est beaucoup plus ambivalente qu'on ne le pensait au départ, et que tous les tabous qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas peuvent avoir des impacts assez compliqués à évaluer. Enfin, je vois très très bien où tu veux nous emmener.
Puis comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une société qui est hyper contraignante. Hein. Ouais, tu as fait une belle référence tout à l'heure, et c'est par rapport au jugement prononcé par la EMA à la fin du scénario. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui est extrêmement disciplinée, presque finalement militaire.
Ouais.
Et
il y a carrément un personnage à qui on a dit, bah voilà, tu penses pas comme on veut. Donc, je précise pour les auditeurs, c'est voilà, tu penses pas comme on veut, donc on va te laver le cerveau et on va te faire penser comme on a envie que tu penses.
Exactement.
C'est la fin de 1984, quoi. Maintenant, tu vas être heureux et tu vas penser comme nous.
Exactement.
Mais tu le sais pas.
Voilà, mais il ne saura jamais. Voilà, c'est ça qui est beau.
Non, en fait, tout simplement, dans Théocalie, l'arrivée des conquérants, c'est le caillou dans le rouage. C'est l'événement qui va justement faire en sorte que les joueurs vont être obligés, enfin les PJ, quoi, les personnages joueurs, vont être obligés de sortir des carcans dans lesquels ils ont été toute leur vie. Et donc c'est très important. Les conquérants sont vraiment au centre du jeu, Mais au final, ils vont découvrir des choses au-delà, justement, enfin, à cause de cet événement-là, mais qui n'est pas forcément lié à l'événement lui-même.
Non, mais c'est vrai que c'est très, 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 très intéressant. Flavie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Au sujet de l'évolution des personnages, parce que du coup, quand on en a parlé, j'ai recherché dans le livre, c'est dans Mettre en scène. T'as un passage sur l'insanité et juste après sur la gestion des conflits.
Alors ça, en fait, c'est pour créer une espèce de petit jeu assez light, de jeu de conquête vis-à-vis de l'avancée des conquérants sur l'île. Donc en fait, plus les conquérants prennent de territoire et plus les actions des conquérants, comme les actions des insulaires, sont violentes et transgressent les tabous, plus on va avoir un score d'insanité qui va augmenter, qui va donc, comme je ne l'ai pas dit au début de partie, réveiller les statues d'or. Statues d'or qui peuvent s'animer, provoquer des choses bizarres, genre de choses-là. Provoquer la folie, effectivement. Et donc, on a voulu inclure ce petit jeu, en fait, peut-être en préparation d'une future campagne ou quelque chose dans le genre, pour justement donner un petit côté... qu'est-ce qu'on gère ? Est-ce qu'on gère l'avancée des conquérants, on les empêche d'avancer jusqu'à la cité d'or, ou est-ce qu'on essaie de nous gérer les tabous pour empêcher la folie de revenir, ou est-ce qu'on essaie de gérer les deux? Voilà, c'est ce qu'on voulait poser comme question, cette espèce d'histoire de dilemme, de dire est-ce qu'on essaie de se sauver nous-mêmes, ou est-ce qu'on essaie de sauver notre morale, notre foi, genre de choses-là.
Alors, par rapport à Théocalie, je voudrais dire à nos auditeurs, voilà un exemple de jeu de rôle qui, à mon avis, et franchement, et un game design et à des règles qui encouragent le narrativisme à fond. C'est-à-dire que c'est les jugements moraux qui priment. Thomas, est-ce que t'as pas arrêté de faire des jugements moraux au cours de scénar? C'est, à mon avis, c'est clair et net.
Moi, j'ai pas arrêté de faire des jugements moraux.
En tant que joueur. Genre, lui, quel gros bâtard, lui, il mérite ça.
Non, j'ai pas eu cette sensation.
Très intéressant. Alors, comment t'as joué à Théocalie?
Moi, comment j'ai joué à Théocalie, alors déjà, c'est au bout, je pense, d'une heure de jeu, je me suis rendu compte que le personnage que j'interprétais n'était pas du tout le bon. Donc là, j'ai découvert qu'en fait, j'étais un autre perso. Je me dis, merde, j'ai pas tout compris.
D'accord, non, mais au-delà de ces problèmes
techniques. Voilà, j'ai eu ça. Et ensuite, après, j'ai suivi le scénario, voir ce qui allait se passer. À aucun moment, j'ai émis de jugement de valeur.
Scénario? Tu trouves qu'on a fait un scénario ce soir?
Bah, on a fait un one-shot, on a fait un scénar.
Tu trouves? Est-ce que t'en es sûr? C'était quoi le scénario? Est-ce que lui, il avait une succession de scènes imposée? Ou est-ce que tout ne dépendait pas?
Pardon, non, en fait, j'ai fait une séance de jeu.
Non, mais attends, c'est vachement important. C'est-à-dire
qu'en fait,
on a là
qu'on a
un jeu de rôle.
On est arrivé dans un village où il y a eu des meurtres, fallait qu'on explique, fallait qu'on comprenne pourquoi il y a eu des meurtres. On a découvert l'équipe.
Une phase d'enquête, mais en fait, à terme, ça mène à quoi? Ça mène à des jugements moraux. C'est des jugements. On a fait que des jugements pendant toute la partie.
De toute façon, les parties de Théocalie finissent toujours de la même manière en one shot. Hein. Moi, j'impose presque de manière comme un démiurge, mais c'est parce que je veux terminer les parties toujours de la même manière pour que les gens, entre guillemets, voient le potentiel de Théocalie. J'essaie toujours de terminer les scénarios par un jugement au tribunal du Seigneur de l'Île. Hein. Mm. C'est quasiment toujours comme ça que ça se produit, hein, de toute façon. Donc,
moi, j'ai fini un scénario sur un jugement des joueurs qui devaient décider entre deux âmes, une qui était une âme vraiment, on va dire, importante pour l'île, un maître Maasi, et l'âme d'un conquérant, et il devait savoir laquelle il devait sauver.
Alors là, vous parlez encore de jugement dans le jeu. C'est-à-dire que dans la fiction, il s'est passé un jugement. Moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle en tant que joueur. Je vous parle aussi de ça, évidemment, tu as mis le jugement dans ta partie, mais je te parle aussi en tant que joueur. Je n'ai pas arrêté de juger les autres.
À aucun moment, moi, Thomas Poussou, je me suis dit, attends, j'arrive dans une société que je ne connais pas, que je vais juger. Je n'ai jamais jugé en tant que Thomas Poussou. C'est des jugements que j'ai faits. J'ai jugé en tant que mon personnage par rapport au tabou qu'il avait. Donc, à aucun moment, au moment de me laisser le choix, vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on l'exile? L'exiler, c'est lui mettre une marque? Non, c'est un tabou de corps. Donc, je n'ai jamais fait de jugement personnel.
Tu vas pas me dire que t'as joué de manière mécanique comme un robot à Théocalie, genre je regarde les tabous et je joue. C'est pas possible. En tant que Thomas.
Si tu veux, Rome, tu as raison.
Non, c'est pas ça.
Tu as raison, Rome. J'ai fait un jugement de valeur. Mais oui, mais je dis des conneries au micro, m'écoutez pas.
Mais Thomas. Enfin, tu vas pas me dire quand même que t'as joué de manière mécanique à Théocalie. Tu t'es forcément posé des questions quand même. Non.
J'ai analysé le système, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire dans le jeu.
D'accord. Flavie, est-ce que tu t'es pas posé des questions, des jugements de valeur?
Moi, je m'en suis posé, mais avec mon perso, mais évidemment.
Bien sûr. Mais évidemment.
Voilà, mais c'est parce que
dans Donjons et Dragons, tu crois que t'aurais pu te poser les mêmes questions?
Non, mais par contre, je dois dire que je me les suis pas posées. J'ai essayé de pas me les poser en tant que Flavie, mais parce que je me sentais pas comment dire, vraiment. Non, mais je suis navrée, Rome, mais je me sentais pas, comment dire. Mais parce que toi, t'avais un personnage qui était proche de ce que toi, tu pensais.
Non, mais même en dehors de ça, Flavie, je t'ai entendu dire 15 fois dans cette partie, mon perso, c'est un gros bâtard, ou alors avoir des jugements sur mon perso, genre, attendez, excusez-moi,
j'avais des jugements sur ce que je jouais.
Mais
parce que j'étais vraiment une grosse connasse.
Et voilà, et t'as pas arrêté de te le dire. Pendant toute la partie, tu t'es dit, putain, là, quand même, mon perso...
Ah, j'avais quand même un perso, juge.
Ça te fait penser à quoi comme partie? À Dogs in the Vineyard.
Ouais,
à
mort. Mais c'est bien pour ça que j'aime ce jeu. Enfin.
C'est du Dogs in the Vineyard au pays des Mayas, ce jeu.
Alors, c'est... qu'est-ce que c'est Dogs in the Vineyard? Dogs
in the Vineyard, c'est un jeu où tu joues en fait des prêtres mormons qui vont avec des grands impairs juger juger les mœurs dans des petits villages aux States.
Excellent.
Et donc en fait, t'es amené à jouer ce qu'on appelle des chiens. Et qui sont des gars qui débarquent dans une ville, donc c'est un peu ambiance western avec des grands manteaux noirs, des guns, et qui sont là pour faire respecter la loi. Mais toute la question, c'est la loi des mœurs, bien sûr, pas la loi, voilà. Mais aussi la loi, en fait, parce que la loi des mœurs, c'est très importante dans les petites villes américaines décrites. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu vas juger entre, par exemple, un mari trompé par sa femme et l'amour que cette femme ressent pour son amant.
D'accord.
Et donc, toi, en tant que chien de Dieu, t'es là, pris entre tes principes de religieux et les principes de la vie de tous les jours. Et donc, le joueur est constamment amené à faire du jugement de valeur sur son personnage, dire « Oh putain, quel gros bâtard !» ou sur le personnage des autres en disant « Oh là là, mais quel salaud d'avoir fait ça !»
Je connaissais pas du tout ça.
Et c'est génial. Si tu connais pas, c'est le jeu pour toi. C'est le jeu, à mon avis... Théocalli, tu essayes de te rapprocher de Dogs in the Vineyard, mais vraiment. Et t'y arrives bien, t'y arrives bien. Colin, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Non, pas du tout.
Moi, le jeu que tu citais fait penser justement au personnage joué par
Flavie. Flavie, effectivement, bien sûr. Mais pas uniquement.
C'est un juge. Bah, là,
oui, mais nous, face à ce juge-là, et face à n'importe qui, souviens-toi de la fin de ton scénario.
Exactement.
Enfin, ton scénario de ta partie. C'est quand même un juge, à la fin, tu nous demandes d'être comme elle. Tu nous demandes de prendre parti. Et de toute façon, de base, en mettant un personnage comme celui de Flavie et des tabous à la table, tu obliges les autres joueurs
à se
positionner.
Est-ce qu'on
est d'accord avec elle lorsqu'elle rentre dedans ou alors est-ce qu'on la suit pas, etc. Et donc, on doit se poser des questions. Après, bon, Tom, tu dis que tu t'es pas posé de questions, c'est possible. Mais je pense que parce que aussi, t'es dans une situation où on va enregistrer un podcast derrière, donc où t'analyses le jeu peut-être aussi Non, tu penses que ce jeu ne t'amènerait pas à te poser des questions.
Alors je dis pas ça, je dis que dans la séance qu'on a eue, je me suis pas posé de questions parce que c'est du one shot. Maintenant avec de la campagne, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'univers en main et que j'ai un personnage qui va durer, il est possible et je pense qu'il y a des chances que j'arrive à ça. Mais voilà, sur l'expérience de ce soir, ce n'est pas la sensation que j'ai eue.
D'accord, ça marche, ça roule. Mais en tout cas, en plus, il y a des mécaniques dans ton jeu qui ressemblent énormément à celles de Dogs. Vraiment, je t'invite à regarder ce jeu. Donc voilà, ça c'est un exemple à mon avis de jeu narrativiste. Un vrai jeu narrativiste, Théocalli, au sens où c'est un jeu qui amène les joueurs. D'abord, les joueurs créent eux-mêmes l'histoire, puisque les protagonistes et les véritables héros, ce sont bel et bien les joueurs. Il n'y a pas plus puissant qu'eux. C'est à eux de juger, etc. On ne sait pas dans quelle direction ça va partir, parce que toi, je suis sûr que quand ton scénario écrit, c'est juste un bac à sable.
Mais
tu
moi,
sais
moi,
à peu près
pas
ce qui se passe.
Scénario.
Voilà, tu m'as dit dès le départ, c'est improvisé.
Fais que de l'improvisation.
Voilà, donc on est bien dans un jeu à tendance narrativiste qui encourage les dynamiques narrativistes, et en même temps, il n'y a pas de partage d'autorité. Il y a un maître de jeu. Voilà. C'est un bon exemple pour ce dont on parlait dans un précédent podcast avec Manu. Et là, à mon avis, vraiment, de ce côté-là, c'est une bonne réussite. C'est vraiment une réussite, ce jeu. Il est cohérent. Et c'est marrant parce que je pense que tu ne l'as pas réfléchi comme ça, en fait. Tu t'es d'abord posé la question, moi, en tant que joueur, à quoi j'aimerais jouer, non? Simon.
Moi, je suis quelqu'un dans l'écriture de très particulier. C'est-à-dire que, Colin pourra vous le dire, je suis une personne qui est très très intuitive et très dans l'instinct. Et j'écris sans me poser de questions. Je suis un menteur patenté, Colin pourra vous le dire aussi. Et j'arrive, après avoir lu ce que j'ai écrit, à trouver une raison à ce que j'ai écrit. Et donc à poser des concepts dessus.
D'accord. C'est-à-dire que tu surinterprètes, tu réinterprètes
exactement
ce que t'écris.
Et après, j'arrange en fonction de ce que j'ai voulu dire.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qu'on fait Colin justement très bien à deux. C'est-à-dire que moi qui suis quelqu'un de très logique, quand il m'ouvre des voies, moi je peux rentrer dedans en disant ah bah oui mais ça ferait ci, ça serait lié à ça, ça serait machin, et Simon il fait bah ouais. Et en fait je pense que c'est parce que inconsciemment il fait les mêmes liens que moi, mais c'est vrai que du coup, tous les deux, on travaille vraiment très très bien. Parce que
Justement, je voulais savoir comment est-ce que vous avez travaillé sur Théocalie ensemble. Parce que du coup, comme il y avait un échange constant là, dans cette partie, ça me fait poser des questions. De temps en temps, il se retournait vers toi, il disait « c'est bien ça ». Toi, tu te retournais vers lui, tu disais « c'est bien ça ». On se dit « mais qu'est-ce qu'ils ont fait les deux là ?» Ils ont fait leur jeu, quoi.
Mais le concept du jeu lui-même, c'est Simon qui l'a fait entièrement, parce qu'il l'a fait dans le cadre d'un concours.
D'accord.
Et où il était forcé de le faire tout seul. Donc
des murs en herbe,
oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc c'est lui qui a vraiment fait le concept de base tout seul comme un grand, jour et nuit. J'en ai le souvenir très marqué, parce que c'était 2 semaines assez terribles. Mais... Mais c'est vrai que en fait on est assez opposés, et en fait opposés dans le sens plutôt très complémentaires.
D'accord,
dans le travail.
Donc par exemple toi tu vas créer par exemple tout ce qui est concept, etc. Et puis toi tu vas t'occuper du système de jeu, ce genre de choses par exemple.
Non, le système de jeu il a été fait par un troisième auteur. Mathieu Némy.
Il y a donc un homme de l'ombre.
Il y a un homme de l'ombre.
Qui est-il, cet homme de l'ombre? Parce que son c'est... Et lui, est-ce qu'il connaîtrait pas Dogs in the Vineyard? Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, peut-être. Non, parce que les grands concepts liés au tabou, etc., c'est nous, Colin et moi, qui les avons posés.
D'accord.
Mathieu, lui, a surtout rédigé vraiment le système en termes de règles, en fait. Il a vraiment créé les règles pour le jeu, à partir d'une base que je lui avais donnée.
Les systèmes de résolution, quoi.
Exactement. Ouais, tout à fait.
D'accord.
Voilà.
Ok, ça c'est un truc sur lequel on pourrait revenir, mais c'est vraiment du détail, mais je pense qu'au niveau du système de résolution, il y a des choses qui vont justement... Alors, il y a une dynamique narrativiste très forte pendant tout le jeu, et puis il y a quelques éléments qui viennent perturber cette dynamique. Par exemple, est-ce que c'est un jeu à mission, Théocalie?
Non.
Voilà, je me pose la question.
Non, parce qu'en one-shot, il est créé pour être un jeu à mission, parce que c'est beaucoup plus facile pour le meneur, en fait, de poser une mission avec le coup des émissaires d'or.
Est-ce que c'est un jeu d'enquête?
Non plus.
Alors, qu'est-ce que viennent faire toutes ces compétences par exemple, alors célébrer, oui, ça marche, charme, ça marche, combattre, dissimuler, examiner.
Examiner, il faut bien, mais si tu veux, c'est un jeu de tout en fait.
Est-ce que tu crois pas que tout ça, tu pourrais le virer, quoi?
Non, je peux pas le chanter parce que pour moi, ça participe de la résolution de certaines actions où le hasard va finalement rentrer en ligne de compte. Mais vous avez pas fait tant de jet de dé que ça.
Est-ce que tu trouves que ce hasard apporte justement de la tension au niveau des jugements moraux et tout ça?
Pour moi, complètement. Parce que dans le chaos, je pense que les jugements ils se transcendent vraiment pour le coup.
Mais étant donné qu'on réussit toujours nos actions, j'ai pas vu un seul jet de dé raté, j'en ai vu un seul et c'était vraiment exceptionnel. Et encore, il a pas mené à de grandes conséquences morales énormes.
Ça a été le cas, mais moi je me souviens du deuxième scénario. Tu te rappelles du deuxième scénario que je vous ai fait jouer? Où un des joueurs a voulu mettre hors combat un conquérant. Et il a fait un jet spectaculaire sur son jet de combattre. Jet spectaculaire, et il faut savoir que quand on combat, c'est pas forcément très bien de faire de très bons jets aussi, puisque forcément ça veut dire qu'on a, on a frappé très fort. Donc j'ai fait faire un jet d'âme pour savoir s'il avait réussi à retenir son coup pour ne pas tuer le conquérant, et il l'a raté. Et il a tué un conquérant.
Ah oui, mais là, c'est vachement spécifique comme jet de dé, tu vois.
Oui, non, mais bien sûr.
Si tous les jets de dé étaient comme ça, enfin, ou étaient porteurs de tensions comme celle-là, je dirais, ouais, carrément, plein de jets de dé. Le problème, c'est que là, je trouve pas, justement. Il y a des jets de dé qui amènent pas grand-chose, finalement, quoi.
Mais en même temps, c'est parce qu'en one-shot, on est plutôt gentil. Non, sérieusement, c'est vrai.
Les éditeurs peuvent pas voir, mais c'est assez badant.
Non, puis de toute façon, moi je pense qu'il faut. Moi j'ai une vision aussi, tu sais, très. J'ai bien aimé le terme.
Attention à ton micro.
Le terme qu'a utilisé tout à l'heure Flavie de ludiste. J'aime bien ce côté, moi, ludique, justement. Puis moi, je suis un gamin, hein, donc voilà, j'aime bien jeter des brouettes de dés, quoi. Et même si je sais, rappelle-toi des partitions, Colin, hein, même si je sais que je vais forcément réussir mon action, j'aime bien calculer, me dire, bah tiens, sur mes 15 réussites, sur mes 15 dés, j'ai fait 15 réussites. Parce que je suis un gros gamin.
Ouais, mais tu vois, ça, alors là, je vais te dire un truc, c'est dommage, parce que à mon avis, ça n'a rien à voir avec ce jeu, en fait.
Bah, moi, je pense que si, parce que quelque part, il y a certains joueurs, pas tous, mais il y a certains joueurs qui ont besoin de se représenter l'héroïsme d'une certaine manière. Alors, ça peut passer par la magie, ça peut passer par les OA, tu vois, mais ça peut passer aussi par le fait de réussir toutes ces actions au jet de dés. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent se sentir supérieurs aux commandés mortels.
Et là, à ce moment-là, peut-être faire le faux pas.
C'était à ça que j'allais venir, moi, parce que, en fait, quand tu sais pas que tu es puissant, je pense, avant d'avoir. lancer tous ces trucs ouais. Et en fait tu te rends compte que peu importe ce que tu lances en fait, oui tu vas le réussir mmh. Mais c'est pas ça qui est important.
Mmh. Alors moi tu vois il y a un moment donné Fly où t'as carrément fait des péchés d'orgueil, c'est-à-dire il y a carrément des moments donnés où ton personnage ce gros bâtard encore un jugement vraiment non mais attends il y a un moment donné où il a dit de toute façon je suis trop fort ce mec en gros je vais lui foutre la gueule par terre et
ouais mais parce
mal,
que
quoi.
C'était pas ça l'important, c'est-à-dire que moi au début du jeu là je me ramasse face à des mecs qui se combattent. Moi, j'ai essayé de les, je les ai empêchés de se battre par en leur imposant le respect. Mmh. Mais s'il avait fallu utiliser la force pour éviter qu'ils se mettent dessus, et donc, tu pouvais tout à fait le faire.
Tu penses que les jets de dés à ce moment-là sont bien parce en fait, qu'ils permettent de moi, plus se sentir pissé et de commettre
non,
des erreurs.
Non, justement, pour mon personnage, le problème des jets de dés, c'est qu'il me posait là pour le coup un vrai dilemme, c'est-à-dire je vais faire mon jet de dés, mais si je le fais, je le défonce. Or c'est interdit.
C'est ce que disait exactement. Colin tout ouais. à l'heure.
Et du coup le fait de me rendre compte que j'allais lancer 16 dés, je me dis putain c'est démesuré, je vais le défoncer, je peux pas faire ça.
Non mais vous voyez ça, alors ça, vous voyez comme ces jugements là et ces jets de dés là, ils ne sont importants finalement que lorsqu'il y a de la violence physique.
Mmh. Mais c'était moral aussi. Hein. Moi j'ai décidé de défoncer la gueule à quelqu'un psychologiquement. C'était un vrai choix, c'était quand même extrêmement limite. Je l'ai fait parce que je le pouvais, parce que sur le moment je le voulais vraiment, parce que c'était un... Voilà, c'était dans mon perso, je me suis dit que c'était ce qu'il aurait voulu. Mais putain, tu sais que tu vas réussir quoi. Enfin, ça pose quand même un dilemme. Est-ce que vraiment j'ai envie de détruire la psyché de quelqu'un quoi. Enfin...
Ouais, non, mais
et puis, tu voulais dire quelque chose.
Colin, tu voulais ajouter quelque chose.
Que...
Par rapport au fait que c'était que, je disais, c'est que de la violence physique et tu t'avais l'air de tiquer quand j'ai dit ça.
Bah, non, c'est pas ça, c'est que. Par exemple, tu jouerais avec moi en MJ, ton ressenti serait pas le même. Parce que c'est aussi des choix de compteur. C'est-à-dire que c'est vrai que Simon, lui, il aime qu'on se sente fort et parfois même, il aime bien te détruire derrière en disant, voilà, il te fait te sentir fort pour après mieux te détruire. Ouais. Alors que moi, quand j'ai fait des parties en convention, franchement, les personnages se sentaient pas si puissants que ça. Parce que déjà par rapport aux grâces, t'as pas vraiment rajouté de difficultés et moi je rajoute beaucoup plus de difficultés en disant ok mais tu veux toucher combien de personnes, tu veux que ça dure combien de temps, et souvent des fois pour certaines personnes je les coupe au milieu de leur grâce en les disant c'est fini.
Mais est-ce que
t'as pas assez investi ou alors et ils ont pas intérêt à arrêter leur grâce, pas intérêt vraiment.
Si vous deviez résumer le propos de Théo Cali pour nos auditeurs en quelques, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par ce jeu?
Moi,
Simon. Et puis après Colin. Réfléchis.
Je vais faire une petite digression. Moi, je suis un grand fanatique de comics. J'adore les comics, j'adore l'histoire de super-héros, que ce soit du Batman à la Superman, en passant par les X-Men, etc. Ouais. Et ce que j'aime le plus dans les comics, moi, c'est quand les héros qui sont capables de sauver le monde, un héros comme Sentry, par exemple, je sais pas si vous voyez qui c'est dans les Marvel, l'équivalent de Superman, sauf qu'il est habité par une espèce d'alter ego qui s'appelle Void, qui détruit des choses quand lui il fait de bonnes actions. Et moi je prends pas plus mon pied en lecture de comics quand je vois un héros se casser la gueule. Et contraint par ses tabous, contraint par ses faiblesses.
Tu dois kiffer le surfeur d'argent.
Exactement, tout à fait. Et moi ce que j'aime bien, c'est avec Tokeli, ce que je voulais dire. Vous jouez des personnages qui sont presque des super-héros. Qui sont des personnages qui sont capables de sauver le monde, de déplacer des montagnes, à haut level même de créer des montagnes, par exemple, mais qui sont contraints par des tabous qui les empêchent d'accomplir ce qu'ils veulent, qui les empêchent de gagner la guerre contre les conquérants. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai voulu raconter. C'est une histoire tragique, hein. On est dans une résolution impossible d'une situation donnée, alors qu'on a toutes les billes pour le faire, mais parce qu'un petit élément vient nous... Voilà, en l'occurrence, un gros élément vient nous empêcher de résoudre cette chose-là. Et là, c'est ça que j'aime, moi. Et c'est complètement sadique, hein, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est intéressant. Colin ?
Bah moi, je ne suis pas fan de comics, par contre, j'adore me prendre la tête. D'ailleurs, je crois que je te l'avais dit quand j'ai joué à 100, j'ai dit...
Oui.
Simon, il m'a dit que j'allais aimer 100 parce que j'adore me prendre la tête.
Oui.
Et j'adore me retrouver dans des situations où il faut que je trouve une solution, où je ne sais pas comment faire, où je me retrouve Et en fait, là, ce que...
Comment tu savais que 100, c'était un jeu de prise de tête, Simon, en fait ?
Parce que j'avais lu pas mal de trucs dessus.
Ah, d'accord, ok.
Moi, ce que je cherche à faire dans Théo Cali, c'est... effectivement, c'est un peu la même chose, c'est de mettre des personnages dans un carcan et que tout ce qui se trouve autour d'eux, au final, c'est-à-dire leurs convictions principalement, au fur et à mesure s'effondre et qui se retrouvent dans un espèce de carcan à se dire que voilà, ils ont leur foi, ils ont tout ce qu'il y a autour d'eux qui s'effondre, il faut qu'ils réussissent à s'en dépatouiller, qu'ils réussissent à s'en sortir et à finalement recréer leur propre réalité, en fait, à découvrir la vérité.
C'est vrai, c'est marrant la manière dont vous parlez de... Vas-y, je t'en prie, Simon, continue,
parce qu'en,
c'est vachement
en plus,
intéressant.
Quand les joueurs découvrent la vérité, toi, Flavie, quand tu liras le bouquin, tu verras qu'en fait, ça implique beaucoup plus de choses. Ce que je viens d'énoncer là, ça prend une ampleur multipliée par 10, 20, 100, quoi. Ça devient terrifiant, presque. Donc voilà.
Ce qui est marrant, c'est que quand on écoute vos motivations et vos propos, on voit que c'est les personnages qui les soutiennent. Et on sent, enfin, moi, ce que j'attendais, c'est plutôt que vous me répondiez, on a envie que les joueurs fassent ou ressentent ça. Et puis finalement, vous passez vraiment par les personnages, quoi, pour le faire.
C'est ce qui m'intéresse le plus, hein. Vraiment, pour le coup, comme je te le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les héros, hein. Donc, à partir de là.
D'accord.
Mais ça va forcément forcer les joueurs à se poser les mêmes questions.
Parce que toi, c'est vrai que tu as une réponse plus de joueur en disant j'aime bien me prendre la tête, donc en tant que joueur, j'ai envie que les joueurs se prennent la tête.
Après, c'est vrai que Simon
répond moi j'aime bien les personnages, tu vois. Ça, c'est marrant. On dirait que toi, tu penses à un jeu de rôle et que toi, Simon, finalement, Théocalie, t'en ferais bien un roman presque.
Bah ouais, puis moi, je suis pas exclusivement meneur, mais je suis énormément meneur dans nos parties entre amis ou avec d'autres gens, et je suis que meneur de jeu, et moi, ce que j'aime par-dessus tout, comme je te disais tout à l'heure aussi, c'est raconter des histoires, quoi. Donc, puis comme je te disais, c'est des histoires de personnages. Donc, j'ai fait des campagnes qu'en improvisation, et des campagnes qui duraient plus d'un an. Donc, voilà, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est réagir en fonction des joueurs, et presque rentrer dans un jeu, je sais pas comment... Quelle terminologie tu utilises?
Narrativiste. Ouais, c'est une terminologie qui est tellement galvaudée aujourd'hui qu'on. Ouais, c'est ce que Thomas il évacue. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord que c'est.
Tu ne dis pas narrativiste.
Faut pas le dire. C'est trop compliqué. Ouais, vraiment, c'est rentré dans un corpus théorique qui est tellement galvaudé, tellement mal compris maintenant que c'est casse-gueule, en fait.
Mais t'as tout à fait raison quand tu dis.
Tu vas encourager les dilemmes moraux et l'histoire.
Exactement.
Voilà. C'est ça.
T'as tout à fait raison quand tu dis que je me mets beaucoup dans la place des joueurs, parce que c'est vrai que je m'en suis rendu compte encore plus en écrivant le bestiaire et en discutant avec un de mes relecteurs que quand je lui ai dit j'ai écrit tel personnage, enfin tel PNJ, mais les joueurs quand ils vont découvrir la vérité dessus, mais comment ils vont se mettre à douter, comment ils vont se poser des questions dessus et tout, et ils vont se prendre la tête et c'est vrai que moi je me mets dans la position, moi si je me retrouvais face à une créature comme ça, si je découvrais vraiment la vérité dessus, qu'est-ce que ça me ferait, quoi. Et puis ça remettrait en doute toutes mes convictions déjà acquises, et voilà, donc c'est ça qui m'éclate aussi.
Thomas tout à l'heure disait qu'il n'avait pas eu à aucun moment cette forme de jugement, enfin qu'il n'avait pas ressenti ça en tout cas, mais en fait si justement les jets de dés t'amener nécessairement à formuler ce genre de jugement, genre si je fais le dé, je risque ça, mais si je le fais pas, je risque ça, etc. Peut-être que Tom, du coup, aurait été obligé d'avoir ce genre de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est qu'il y a peut-être des petits réglages sur le système minime à faire qui ferait, mais genre, ou rien du tout, hein, peut-être même garder tout ça et puis juste dans votre supplément, ajouter une règle qui ferait que. Par exemple, on oblige en fait le joueur qui jette son dé à se poser une question, un dilemme moral ou un truc comme ça. Peut-être. Enfin, je te propose ça, mais
ça pourrait être intéressant. Effectivement, il y a une notion que j'ai oublié aussi tout à l'heure à dénoncer.
C'est déjà vachement bien.
C'est la notion de graduation, c'est-à-dire que même d'évolution de l'action. C'est-à-dire que par exemple, toi tout à l'heure, ton personnage, il a fait un jet, je crois, de sens examiné lorsqu'il était en haut du temple pour voir des choses.
Ouais.
Et en fait, moi, ce que j'aime aussi, c'est que t'es quasiment sûr que tu vas réussir ton jet. Donc toi, en tant que joueur, tu sais presque inconsciemment que tu vas, même consciemment, que tu vas forcément voir quelque chose d'intéressant. Mais il y a une notion, moi, que j'aime bien mettre et qui est difficile à articuler en termes de jeu, c'est la notion d'évolution, de marge de réussite. Par exemple, pour moi, plus tu fais de réussite, finalement, plus tu vas voir de choses intéressantes, plus ton esprit va s'arrêter sur des choses, plus l'esprit du personnage va s'arrêter sur des choses. Et c'est ça que j'aime bien avec ce système. C'est-à-dire que, comme on a une difficulté de base qui peut être finalement... transcendé par des réussites supplémentaires, on peut amener au personnage des éléments supplémentaires, des informations, des réussites en combat, une violence en combat, etc. On peut donner du plus, quoi. Et moi, j'aime bien les systèmes qui donnent du plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a un système que j'aime pas, c'est celui de Warhammer, parce qu'il joue sur le moins. Il joue sur justement la non réussite, la difficulté. Mmh. Et moi, j'apprécie pas. Je suis un MJ gentil, je suis très gentil. Mmh. et du coup, j'aime bien que les joueurs réussissent leurs actions et puissent justement avoir du plus, avoir des choses supplémentaires.
D'accord, ok. Ça, c'est intéressant aussi pour le game design, savoir comment est-ce que vous avez réfléchi au jeu. Juste une petite question philosophique comme mmh. ça. À plusieurs reprises, vous deux là, vous distinguez les pensées des sentiments. C'est marrant, plusieurs fois, c'est revenu sur le tapis. Je l'ai noté trois fois. Mmh. Trois fois, vous avez dit, non, je vais voir ses pensées. Non, plutôt ses sentiments. À un moment donné, tu m'as fait la réflexion pour les insectes. Tiens, je vais pas, t'as pas, les pensées n'ont pas d'insectes, ils ont des sentiments, etc. D'où est-ce que vous vient cette distinction?
Bah, en fait, c'est simple, ça vient du jeu. C'est tout bête.
C'est un truc maya?
C'est un truc maya, on va dire que c'est un truc méso-américain. Il faut savoir que dans certaines cultures d'Amérique du Sud, on distinguait de manière très très clivée le corps. Alors c'était pas la notion d'âme, il y avait pas encore cette notion là, mais de liant les choses qui lient le corps et l'esprit. Donc nous on l'a appelé âme, mais c'était réellement autre chose. Et là où l'esprit était le seuil des pensées, ce liant, donc nous qu'on a appelé âme mais qui s'appelait pas âme à l'époque, était le seuil justement des émotions,
tu vois.
Et donc là, bah, on a repris cette notion là l'esprit c'est le véhicule des pensées, d'accord, voilà, donc il contient les pensées, et l'âme c'est le véhicule des émotions. Du coup, on a vraiment distingué les deux choses.
Quand tu penses, par exemple, que t'es en danger, tu y associes l'émotion peur, par exemple.
Voilà, exactement, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Tu vois, ça nous est venu, puis moi, ça m'amusait parce qu'en fait, ça permettait vraiment de poser ces notions-là sur des caractéristiques, quoi. Donc, c'est vrai que c'était rigolo de jouer avec.
Ouais. Colline, non, même chose, rien à ajouter.
Aussi du fait que pendant la partie, moi j'ai joué une Maasai, donc une personne, les Maasai,
bah oui.
C'est quoi leur nom en français, on va dire
C'est les psychomètres.
Les voyageurs.
Les voyageurs, c'est ça, ouais.
C'est des psychomètres, quoi. Ils sont capables de voyager en esprit.
Voilà, dans les Maasai, dans les grâces des Maasai, il y a une différence entre les passions et les pensées. Mais effectivement, lorsqu'on se trouve, comme les Maasai, à devoir parler avec des âmes, c'est clair que les émotions vont être les plus prégnantes parce que les âmes, c'est principalement de l'émotion, même s'il reste des bribes comme une empreinte de l'esprit au cœur de l'âme, quoi.
Comment on pourrait appeler ça, l'âme? Le cœur, peut-être, comme siège des émotions.
Exactement, ouais,
quelque chose comme ça. Mais ouais. ça reste encore un peu.
Alors c'est bien expliqué dans le
moderne, scolastique. Un peu, ouais. Enfin, en tout cas, c'était rigolo de vous voir faire ces distinctions plusieurs fois. Moi, j'ai trouvé ça, sinon globalement, très dépaysant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Fly et Thomas. Moi, j'ai trouvé ça.
J'ai trouvé ça bien. Et moi, vous le savez.
Oui, d'accord, mais c'est même les noms et tout ça.
Moi, j'étais totalement dépaysé. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais assez fan de tout ce qui était Maya. Mm-hmm. Après, j'ai lâché plutôt pour les pyramides et les autres momifications.
Moi, j'étais dans le sens, c'est marrant.
T'as regardé les Cités d'Or quand t'étais jeune?
Bah oui. Moi? Ouais. Moi, je les ai en DVD, je les ai vu des tonnes de fois.
Il a des goodies, il a un aigle, il a le condor doré dans son placard,
dire. C'est parce qu'il faut savoir que
Il a même anecdote, il a une petite pendule toute pourrie. Des Cités d'Or avec Esteban, un truc mais tout pourri sur un CD. Un CD avec des aiguilles, et il y a Esteban, Tao et Zia, c'est ça les noms?
C'est excellent.
Il y en a qui étaient fans de Saint Seiya, qu'est-ce que tu veux?
Mais le Théo Kali, l'idée de Théo Kali est partie à germer depuis les Cités d'Or.
Attends, avec les Cités d'Or au centre et tout, on est à fond dedans.
En tout cas, ouais, ça veut beaucoup dépayser.
Super dépaysant. Ça, c'est un des gros points.
Ainsi, un truc que j'ai bien aimé, c'est la taille de l'île, qui en fait est pas très grande. Et donc, ça rend plus accessible. Parce que d'habitude, quand on propose dans un jeu de rôle un univers, l'univers, il est super massif, voire même, il sort des tonnes de bouquins pour te montrer des mondes parallèles. Et là, c'est petit, et donc, en fait, limite, c'est humain. Tu vois vraiment comment tu peux te balader, quoi. Avec les noms, les références. Il y a un moment, j'ai posé une question. Mais ça se passe comment à la justice? Il y a un tribunal? Tu sais rien. Quand on t'apprend en même temps, ça.
Et tu vois, là, le dépaysement, sans pour autant avoir le problème de worm, c'est-à-dire de pas se retrouver à pas savoir comment jouer. Moi, je trouvais qu'il y avait dépaysement sans son côté, sauf mis à part les noms, mais là, c'est un problème de lexique, tu vois, c'est pas.
Oui. Moi, je trouvais. Vurm, c'est pareil. Moi, j'ai pas eu ton problème dans ces parties-là.
Ouais, oui, c'est donc, vrai. Décidément, on a une forme d'esprit différente.
Oui, hein, c'est pour ça qu'on est tous les deux sur le podcast. Hein.
Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, Fly dépaysé aussi. Donc, ça, on est tous unanimes là-dessus. Écoute.
Je le répète. J'ai trouvé ça bien.
Oui, moi j'ai trouvé ça bien aussi, voilà. C'est pourquoi tu voulais que je le dise spécialement.
J'aime bien répéter.
D'accord, ok. Donc c'est bien.
Jouez-y.
Combien Jouez-en, vous en avez bon. Combien vous en avez vendu Théo Cali, vous savez ou pas?
Alors
au jour d'aujourd'hui.
À nous seuls avec Colin parce qu'on on les
Alors vous êtes édité par
Footbridge Edition, tout à fait, ouais. Nous à nous seuls, on en a vendu je crois 70 quelque chose
non,
comme ça.
Non.
Attends, Colin, dans le micro, parce que sinon.
Une bonne
peu
cinquantaine.
Moins.
Bon, ben voilà, une cinquantaine, c'est bien loin de ce que j'imaginais. Et je sais que notre éditeur, lui, en a vendu.
Alors, aux dernières nouvelles de ce qu'il m'a dit, il en avait en tout, on en avait vendu une centaine, mais il ne savait pas du tout par rapport aux ventes en boutique.
D'accord.
Parce que, parce que le livre est sorti en boutique assez récemment, mmh. au mois de mai, mi-mai, D'accord. je crois.
Hein oui, c'est ça.
Donc ça fait pas longtemps et apparemment il m'a dit qu'il n'aurait de nouvelles de Millennium que le 20 juin.
D'accord.
Pour les ventes de mai.
J'aimerais
donc en fait
savoir,
il ne le sait
vraiment.
Pas du tout.
Ouais, moi aussi, ouais.
Vraiment, ça m'intéresse.
Moi je conseille, ça change vraiment et pour le coup, en plus, je le dis parce que les joueurs de jeux de rôle aiment bien aussi les beaux livres. Moi je trouve le livre est beau. Donc,
c'est gentil.
Donc moi j'aurais bien voulu savoir parce que c'est vraiment un jeu qui, enfin, c'est marrant parce que c'est un jeu quand on y réfléchit bien au niveau des tabous qui prend à contre-pied toutes les pratiques rôlistes habituelles. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de piller, on n'a pas le droit de toucher les cadavres, donc pas le droit de fouiller les corps. On n'a pas le droit de tuer, donc pas le droit de tuer des gars. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on prend le cliché, Lord Gardakan et tout ça là. Tu vois, on prend le cliché et puis on met les tabous. Bon bah t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'avoir un paladin niveau 66, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment.
Ouais, ouais.
Et là-dessus, je trouve
pour
ça.
Pour la simple raison, quand tu commences, t'es déjà paladin niveau 66.
non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est. Pour moi, ça, ce côté-là, ça me plaît bien.
Mais ce qui est rigolo, c'est que justement, quand je l'avais travaillé pour. Au tout début, quand je l'avais travaillé pour les démiurges en herbe, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais ressenti de la part de certains juges comme un défaut. Tu vois? Certains joueurs aussi, notamment le frère de Colin qui nous a dit
pendant une demi-heure nous a pris la tête en nous disant mais on peut pas tuer quoi.
Voilà. Ah oui, il y a des joueurs là, ce qu'ils aiment c'est avoir une grosse épée et tuer des gens quoi.
Ouais, mais
donc dès qu'on leur propose une dire tu peux pas tuer, t'es fort mais t'es pas le droit de tuer, effectivement des gens que ça bloque.
C'est normal que y ait des jeux qui plaisent à certaines personnes, d'autres qui plaisent pas à certaines personnes.
Tout à fait, t'es pas fait pour plaire à tout le monde.
Mao Shoujo, le jeu de Thomas, je veux dire voilà, ça parle quand même de bishoujo, de sorcières.
Non, pas de bishoujo, attention.
Non mais ça parle quand même d'un manga très particulier qui est le manga pour filles. Petite fille, voilà, c'est sûr que le proposer aux rôlistes
avec
français,
des
la version hentai n'est pas vraiment pour les petites filles.
Non, mais
hein.
ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est bon, évidemment, il y a des jeux, il y a des publics, ça, on peut
testé.
Pas. Ok, d'accord. Mais je trouve que c'est intéressant pour une fois, si j'ose dire, parce que maintenant, ça devient vraiment monnaie courante ce genre de jeu qui rompt un petit peu avec la tradition. C'est bien de l'encourager et de le soutenir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi tous les deux d'être édités? Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'édition?
Bah parce que
on en a parlé en fait en préparation du podcast.
Parce que quand on a commencé à écrire sur Théo Cali, on n'avait pas toute cette relation au jeu de rôle qu'on a maintenant. En fait, on était dans un groupe de jeux finalement et on connaissait pas trop l'univers finalement si tu veux du jeu de rôle. On connaissait bien les jeux de rôle, mais on connaissait pas autant que vous par exemple ici à la cellule, vous pouvez le connaître. Ce qui fait que nous, être édité, mais... c'était simplement une. Pour nous, c'était la seule voie.
En fait, moi, je me demande comment vous avez fait. Pour faire un jeu aussi bon sans avoir une connaissance. Enfin, vous dites que vous n'avez pas de connaissance du jeu de rôle, je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Vous n'avez pas pu faire un jeu.
C'est plutôt, en fait, pas de connaissance dans le milieu du jeu de rôle, le milieu de l'édition.
Mais même, c'est-à-dire que tu as quand même. Quand tu as les connaissances des systèmes et tout ça, des mécaniques. Ouais,
c'est ça d'être un génie.
Ouais, tu me diras. Ok, bon, enfin, félicitations pour ça aussi. Parce
tu crois pouvoir demander à Minata pourquoi t'es si bon dans la boxe? Ben non!
Non, mais on s'était jamais vraiment posé la question si on allait proposer un jeu à un éditeur. Nous, ça, depuis qu'on se connaît, on travaille sur un autre jeu de rôle. Qui, ça, pendant des années, on a travaillé sur ce jeu de rôle-là. Et on s'était jamais posé la question, on allait le proposer à un éditeur. Ouais, là, ouais. C'est plus... voilà, c'est moi, plus en fait, un concours de circonstances, c'est plus l'annonce de Footbridge qui cherchait des jeux atypiques et on s'est dit, bon, voilà, on était dessus, moi j'étais super motivée pour jouer, pour travailler dessus. Et voilà, on s'est dit, on va lui envoyer, ça ne coûte rien d'envoyer. Mmh. Notre jeu correspond et
moi, je
voilà.
Vais vous dire, j'ai eu un pincement au cœur quand je vous le dis, ça fait deux fois que je vous le dis, je sais. Parce qu'on on l'a déjà dit en préparation du podcast, mais je vous dis, ça, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu Théo Cali aller être édité. Je me suis dit, mais non, ça devait être un jeu de rôle indépendant, ça.
Ouais, mais
je sais pas pourquoi, en plus, j'ai un faux souvenir. J'avais construit un faux souvenir comme quand on en avait discuté ensemble.
Ah ouais? Ouais. Ah bah non.
et voilà. Donc,
et si tu veux, pour nous, bah là, c'est vraiment l'inverse. Pour nous, d'être édité, c'est con à dire, hein, mais c'est presque une consécration. Si tu veux, c'est comme si on avait. J'ai dit, c'est con à dire.
Thomas fait des grimaces.
Si tu veux, c'est comme si on avait. C'est comme si on avait réussi quelque chose. Et c'est finalement quelque chose. C'est finalement une sensation presque erronée, hein, parce que bon, on peut tout à fait faire de bonnes choses, des choses terminé, fini et bien calibré sans forcément être édité, mais pour moi en tout cas, je parle
Colline était
Colline.
Éditrice, juste pour entre parenthèses pour nos éditeurs, c'est-à-dire oui, c'est ton métier en plus Colline.
Oui, tout à fait.
T'aurais pu le faire, vous auriez pu le faire tous les deux quoi, à vous deux.
Alors moi ce que, enfin comment dire.
Tiens. Mais c'était en fait.
C'est étrange, mais je m'en sentais pas la force parce que j'avais pas. J'ai beau avoir toutes les compétences théoriques de l'édition, c'est pas forcément ça qui fait vraiment le fait qu'on est éditeur. Si, pour moi, l'expérience primée, bon, bien sûr, à terme, ça me ferait vraiment plaisir d'éditer mes propres ouvrages. Mais franchement, je suis très contente d'avoir collaboré avec Footbridge pour ce travail-là parce qu'on sait. Des deux côtés, on a pu vraiment s'enrichir l'un l'autre. Moi, ça m'a fait de l'expérience, mais tout en ayant un soutien aussi, quoi.
L'autre raison que vous invoquiez aussi, je me permets de le signaler, c'est aussi le financement.
Ah bah bien entendu, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que le Footbridge a été là pour deux choses. D'une part, c'était un soutien parce que lui, pour le coup, il avait un avantage sur nous, c'est qu'il a une connaissance, Fabien Bonneville, il a une connaissance très très élargie du jeu de rôle. Donc il a vraiment pu nous conseiller en termes de game design, etc., recalibrer des petites choses et puis nous amener aussi vers des endroits que nous, on n'avait pas forcément vus.
Oui, le regard extérieur est très important.
Exactement, hein. Tout à fait. Puis il a un regard assez acéré, donc c'est bien. Et puis la seconde chose, c'est effectivement un financement. On n'aurait pas pu éditer à 600 exemplaires tout seul. Éditer un livre aux couleurs pas cher, entre guillemets, pour le marché actuel. Nous, on est plutôt contents d'avoir effectivement eu ce soutien financier, quoi.
Trouver des illustrateurs, maquettistes de talent aussi, c'est voilà, ça se paye, quoi.
Bon, maintenant on s'est créé un petit réseau donc ça va un peu mieux, mais
oui. Et non, aussi mais... encore une dernière chose pour ma part, c'est que voilà, le premier jeu de rôle sur lequel on a commencé à travailler avec Simon, on a dû bien travailler dessus pendant 3 ou 4 ans.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ok, bon, il est pas terminé.
Non,
clairement pas. Voilà, Théo Cali, c'était voilà, on avait la base que Simon avait écrit, moi j'avais réécrit quelques textes lorsqu'on l'a proposé.
Je vois de quoi
et
tu
on l'a parler. Écrit en un an
parce qu'on
a eu exactement. Et ça, franchement, et mine de rien, ça motive parce que
la pression finalement éditoriale fait avancer les jeux.
Et c'est une bonne chose. Enfin, moi je trouve que c'est pas toujours une bonne chose, mais quand et puis surtout quand on débute, parce qu'après voilà, moi je vois plus on écrit facilement.
Oui, non, c'est sûr.
Ah, mais au début, pour commencer,
après,
c'est bien.
Après, je peux te jurer que quand t'as sorti un jeu, un seul, si les gens ont bien apprécié ce que t'as fait, t'en fais pas que t'en reçois des mails de gars qui te disent « Ouais, et quand est-ce qu'elle sort la suite et quand est-ce que machin ?» Moi, pour sens, c'est quasiment tous les jours que je reçois un mail ou un MP sur un forum d'un gars qui me dit « La suite, c'est pour quand ?» Là, la pression éditoriale, elle est la directe.
Ouais,
c'est ton lecteur.
Tout à fait, bien sûr.
Et t'as pas besoin d'éditeur derrière pour te foutre des claques. Je vais me dire, j'en parle à Fly tous les jours. Vis avec moi au quotidien, elle peut te dire que ça me met la pression et que voilà, quoi, je stresse à fond pour ça. Donc, tu vois, c'est après, bon. Mais il faut le premier projet. Quoi.
Tout à fait.
Le premier projet. Mais c'était une question que je voulais vous poser parce que étant donné que je vous avais croisé sur plusieurs conventions et puis qu'au début moi j'ai croisé Simon Théo Kelly en tout cas parce que on se connaissait pas encore du coup c'est un souvenir construit. j'ai croisé Théo Kelly en tant que jeu amateur à la base en fait.
Ouais, c'est possible.
Et donc du coup moi je m'étais toujours dit après que Flavie en fait m'en ait parlé, je m'étais toujours dit oh putain, faudrait lui parler de Silent Drift et qu'il vienne développer son genre indépendant. Et quand j'ai vu qu'il était édité, j'ai fait eh merde, j'ai raté le coche. Mais bon, voilà, non, mais je comprends tout à fait vos choix et voilà. Et l'édition aussi, c'est plus simple, ne serait-ce que pour la distribution et tout ça. Bon, c'est des choses à faire en moins.
Ouais.
Donc voilà, c'est un choix qui s'explique aussi par ça, je pense.
Et aussi, c'est ce qui est rigolo, c'est que parfois, quand tu imagines certains concepts de jeux de rôle, tu les imagines parfois dans des lignes éditoriales. Par exemple, un jeu qu'on avait réfléchi ensemble. On s'était dit non, mais je dis pas au micro parce c'est vraiment un balbutiement. On peut en avoir plusieurs et puis voilà, on s'était dit oh mais ça irait bien à cet éditeur là.
Ouais, c'est rigolo.
Et c'est des fois voilà, t'imagines bien ton jeu dans la gamme d'un éditeur et bon voilà, c'est après c'est peut-être aussi parce que on n'a pas toute la vision de tout ce qu'il y a autour du jeu de rôle aussi. Hein. Tu vois les choses comme elles t'arrivent.
Ah non, mais c'est clair, hein, c'est clair.
Par bon, après, le coup de ta lorgnette.
Après, je suis un
activiste
du jeu de rôle indépendant, donc je me permets de vous attirer du côté obscur de la force, c'est bien légitime.
Et ça nous permet de le découvrir.
En toute transparence devant mes auditeurs, d'ailleurs.
Exactement, oui.
Je pense que c'est réglé. Théo Kelly, Fly, s'endort, mais elle juge que c'est super, c'est ça?
C'est très bien.
Oh là là.
Achetez-le.
Voilà. Thomas, qu'est-ce que, au final, t'as pas jugé, mis un jugement définitif, petite conclusion.
Moi, je trouve le jeu bien. Maintenant, en fait, j'attends le prochain scénar et qu'on ait un MJ qui nous lance une campagne pour voir en fait ce que ça donne.
Fly, lève la main, dis-moi. Bon, donc voilà, ça te fera aussi des retours d'un autre. Est-ce que t'as eu des retours d'ailleurs d'autres MJ qui maîtrisaient Okali?
Non.
Oui.
Si, on en a eu un sur le Facebook de Théo Kelly, me semble-t-il. Quelqu'un qui ne savait pas où justement poster un commentaire et qui avait fait tester le kit de démo.
Ah oui, c'est vrai, exact, tout à fait. Oui, tout à fait.
Sinon, on a eu quelques rares commentaires sur le jeu
de lecture,
lui-même.
Quoi. Ouais. De lecture.
Mais en règle générale, positif.
Oui, même pas en règle générale, que positif en fait.
Pas énormément de critiques à notre grande âme. Vrai qu'on aimerait en lire plus, mais.
C'est peut-être un jeu qui
Attendez, les gars, il vient de sortir en boutique.
Il est sorti il y a combien de temps?
Ouais, voilà, c'est ça. Il est sorti en mai.
En boutique, oui, il me semble qu'il est arrivé.
Voilà,
il est arrivé.
C'est rien,
mai,
c'est normal, il faut laisser le temps.
Carrément. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Voilà. Et vous, alors, du coup, rien à ajouter sur cette partie?
Bah, si, moi, j'ai quelque chose. Ouh là là, je commence à oublier des consonnes.
Mais je t'en prie.
J'ai quelque chose à ajouter.
Continue d'oublier des consonnes.
C'est
tout ton temps.
J'ai passé une bonne soirée. Moi, je trouve qu'on.
Idem.
On a fait une bonne partie. On a bien rigolé aussi. Donc, ça. Moi, je pense que je vous ai fait vivre une petite histoire, donc ça m'a suffi.
Mec, t'es vraiment très bien.
Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans mes parties de convention, j'essaie de toujours mettre un petit secret que j'ai dans l'idée d'inclure à la campagne, donc à la campagne du jeu, pas à la campagne. Voilà. Donc à chaque fois, j'essaie de mettre un petit quelque chose.
C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as bien dit, tu nous as fait vivre une histoire vraiment où on était les héros parce qu'on avait des choix et tout reposait sur nous finalement.
Tout à fait, ouais.
Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on s'est pas contenté d'assister à un scénario que tu nous avais imposé. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu dis, mais Sens, par exemple, il y a un peu de ça, quoi. Quand tu lis la base, à l'origine, tu penses Sens Renaissance, tel quel, c'est des scénarios, il y a plein de joueurs qui vont te dire, c'est dirigiste, etc. Et c'est pas faux.
Il y a une ligne directrice.
Il y a une ligne directrice, carrément. Et donc, du coup,
j'ai pu voir.
Voilà. Donc, du coup, les jugements moraux et tout ça, il faut attendre Sens Mort pour les avoir. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un truc qui se débloque à Sens Mort.
Je suis d'accord, mais tu restes quand même un personnage central et un personnage clé de l'histoire de Sens. Alors, moi, quand tu dis ça me fait plus penser à Montagnes Hallucinées, quoi.
Ah oui.
On est en train de faire, et là, c'est vrai que...
Là, dans la campagne des Montagnes Hallucinées, effectivement, nous sommes des personnages qui suivons l'histoire d'autres personnages.
Et encore, le MJ est un très bon MJ et réussit à nous intégrer vraiment en tant qu'acteur.
Pourtant, il est balèze, ouais.
Ouais, super, ouais. Tu me lèves les deux pouces.
Chapeau.
Non, il est vraiment trop fort.
J'ai commencé à lire le truc, je fais ah, ça a l'air génial. J'ai vu que les joueurs étaient pas les héros, j'ai fait bon, ben ça on met en coupe-placard, on y jouera jamais. Chapeau pour le MJ, s'il arrive à vous faire vivre des aventures et vous sentir important.
Et pour il est bon, hein. Il fait un vrai boulot dessus, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est bien.
Il y a pas de bon MJ Thomas.
Ah, voilà.
Sur ces mauvais jeux.
Sur cette campagne-là, si. Faut être sacrément bon, quoi.
Ça m'est déjà arrivé d'avoir de très mauvais MJ sur des très bons jeux, hein. Donc, l'inverse aussi, d'ailleurs. Donc, voilà.
Mauvais MJ, c'est celui qui respecte pas les règles. En bref, on va pas avoir ce débat-là. Maintenant, il est 3h du mat.
Il y a des bons podcasters, il y a des mauvais podcasters. Je pense que les bons podcasters savent quand il faut pas démarrer un truc sur les bons MJ et les mauvais MJ.
Colline, rapidement ton avis sur la partie du coup.
Bah, c'était une très bonne partie, un très bon moment. J'aurais cru que j'allais avoir très envie de dormir et au final, vous m'avez maintenu bien éveillée, donc c'est que. Non mais j'ai
parce qu'on a des voix très aiguës.
J'ai récupéré une endurance après un peu plus de 10 années de jeu de rôle.
Ouais.
Je me rappelle mes premières années, je dormais sur la table.
J'ai adoré. Tout à l'heure, Colline, en préparation du podcast, elle sort comme ça. Bon, non mais c'est quand même moi qui l'ai mis au jeu de rôle. Enfin, au jeu de rôle une fois par semaine.
Oui, pas Simon. Hein. Simon faisait déjà du jeu de rôle avant qu'on se rencontre.
Tu parlais de quelqu'un d'autre que nous ne citerons pas. Peut-être qu'il se reconnaîtra d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'était très, 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 très marrant de t'entendre dire ça. Ouais, je l'ai mis au jeu de rôle, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est souvent, on se pose la question à partir de combien de parties par mois on est rôliste. Tu vois, ce genre de question. Toi, pour toi, la réponse est claire, c'est une par semaine.
Non, c'est pas ça. C'est d'en faire une activité. Une activité qui vraiment a une importance dans ta vie, entre guillemets, c'est différent de faire une partie de jeu de rôle tous les 36 du mois au final d'en faire. Enfin, on fait jamais de campagne, quoi. Mmh. C'est vraiment. Il était rôliste occasionnel et. Mais bon, c'est.
C'est
en même temps, voilà, quand
tu
rencontres une famille où les trois enfants font tous les trois du jeu de rôle et que tu deviens un très bon ami de la famille, bon, arrivé un moment, si tu fais pas de jeu de rôle, c'est bizarre. Non?
C'est bizarre.
Avec Colline, ce qui est génial, c'est que c'est les gens qui font pas de jeu de rôle qui sont bizarres. C'est elles qu'il faut envoyer.
Non, mais dans le sens où si t'es vraiment proche de ces personnes-là, voilà.
C'est un gros.
On fait pas que du jeu de rôle ensemble.
Bien sûr. C'est un gros avantage. Qu'à Colline, ça, c'est qu'elle n'hésite pas à en parler. Et on connaît pas mal de rôlistes aussi.
On est pareil dans la famille. Hein.
Qui hésite à en parler. Un peu comme si c'était quelque chose de mal. Et je sais pas. C'est un hobby comme un autre. Ça peut être une passion, une obsession, peu importe. Mais voilà, on joue quoi.
Le jeu de rôle décomplexé finalement.
Tout à fait, auprès de toute la famille.
En vente dans tous les bons marchands de jeux de rôle décomplexés.
Ouais, sur cette magnifique conclusion, je pense qu'on peut arrêter là et aller se coucher. Allez, à bientôt tout le monde.
Salut.
Bonne nuit.
Salut.